Très bonne soirée, vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h. Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 mai de 18 à 21h, en différé jeudi 9 mai 2002, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue dans ce libre journal de Serge Beckett. Nous sommes aujourd'hui donc le 8 mai, émission en direct. Certains prennent le pont, d'autres empruntent les viaducs. Et nous, nous sommes ici dans le studio, enfermés par une chaleur étouffante, pour essayer de vous... Oui, bonsoir ma petite Victoria, chère Victoria, parce que si je dis ma petite Victoria, je vais encore avoir des bordées.
Oui, 200 messages.
200 messages.
Tout va bien.
Voilà, tout va bien.
Bonsoir
pour vous,
Daniel.
Voilà. Alors donc, je disais, ben, nous sommes là en direct pour satisfaire nos auditeurs, parler de plein de sujets. Nous aurons des sujets religieux, historiques, musicaux, politiques, qu'est-ce que sais-je encore. Enfin, il y a plein de choses. Et je salue tout de suite la présence dans le micro des personnes qui vont participer à la première partie de cette émission. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, premier ordre du royaume, de Saint-Prêtre, qui nous fera l'amitié d'être ici, monsieur l'abbé Claude Barthes, qui est chroniqueur religieux de la revue Catholica, monsieur l'abbé Guillaume de Tannouarne, qui est directeur de la revue Certitude, une revue de grand intérêt. Également un laïc qui s'occupe aussi d'un journal religieux catholique.
Un pauvre laïc, finalement.
Un pauvre laïc, nous autres pauvres laïcs, c'est Philippe Maxence, que tout le monde aura reconnu, qui est le rédacteur en chef de L'Homme Nouveau. N'est-ce pas ?
Newman. Dans sa version.
En version originale.
Version anglo-saxonne.
Version Vivendi. Et Newman. Alors, nous avons également dans le studio qui interviendront en fin de partie, oui, qui peuvent aussi d'ailleurs intervenir au cours de ce premier débat que nous aurons avec nos amis ici présents, Yves-Marie Adeline.
Bonsoir.
Qui a pris racine. D'ailleurs, on n'a pas pu le déraciner depuis hier au soir. Il était dans l'émission du cher Claude Reichmann. Et alors, voilà, il est resté, il a fait un peu de ménage hier, et puis ce matin, on le retrouve tout frais, tout beau, tout joyeux, qui va nous faire un peu de commentaire politique, puisqu'il y a des nouveautés. Maintenant, nous avons la France a un gouvernement. Ça, c'est quand même très intéressant. On pensait qu'on, je sais pas, comme il avait démissionné, on en avait plus, bon, on en a un nouveau. Alors, vous aviez plein de commentaires à faire là-dessus.
Oui.
Il y aura pas mal de commentaires. Et puis, notre ami Étienne Grandterre, qui est chroniqueur.
Bonsoir.
À Légitimiste Hebdo, ou à l'hebdomadaire Légitimiste, que le nom du journal c'est Légitimiste.
Effectivement,
voilà, qui collabore régulièrement.
Chaque semaine.
Ça revient vite, les semaines.
Oh là,
vite, qu'il dites-vous.
Le rythme hebdomadaire.
Voilà. Et puis nous aurons peut-être un peu plus tard quelqu'un par téléphone, mais pour l'instant, nous n'arrivons pas à faire la jonction téléphonique. Voilà. Malgré les efforts de notre technicien Franck, que je remercie de tout cœur. Donc les auditeurs qui souhaiteront poser des questions tout au long de cette émission pourront le faire par le téléphone habituel ou par fax. Mais j'ai réuni donc aujourd'hui les abbés Claude Barthes, Guillaume de Tannouarn et le laïc Philippe Maxence pour un entretien à bâton rompu sur deux thèmes qui me semblent des thèmes intéressants, sur lesquels je pense que vous allez avoir intérêt, beaucoup d'intérêt à discuter. Il s'agit de ce qui se passe actuellement dans l'Église en regard de la portion, disons, traditionnelle, que tous ici présents vous incarnez à titre des titres divers, avec vos charismes particuliers. C'est notamment l'affaire de la régularisation de la communauté traditionnaliste de Campos, qui est une province du Brésil, dans laquelle il y avait une forte communauté traditionnelle, avec beaucoup de prêtres, beaucoup de fidèles, beaucoup de lieux de culte, qui avait été illustré à une certaine époque par Mgr de Castromayer, qui fut un homme proche de Mgr Marcel Lefebvre. Et puis il y avait eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et à la fin, une négociation a survenu, une signature et un accord sont également intervenus, qui fait que la communauté de Campos s'est vue dotée par le Saint-Siège d'une administration apostolique à l'échelle du diocèse de Campos. Donc il y a une espèce de cohabitation entre une administration apostolique pour les traditionalistes et l'administration normale, régulière du diocèse de Campos. Mais tout ça semble se passer pas trop mal, mais j'aimerais avoir évidemment vos réactions sur cet arrangement. D'autant plus qu'un arrangement similaire a été proposé à la Fatité Saint-Pédis, avec quand même une nuance de poids, c'est qu'on proposait, semble-t-il, à la Fatité Saint-Pédis une administration apostolique, non pas à l'échelon d'un diocèse, mais à l'échelon de la planète tout entière. On passe à un autre degré. Alors, j'aimerais que nous en parlions, et également, si vous le voulez bien, puisque tous ces thèmes sont quand même extrêmement proches les uns des autres, également autour de l'abbé Barthes et avec les autres participants, que nous puissions un peu évoquer l'état actuel de la liturgie et surtout la position du Saint-Siège, qui semble évoluer sur les questions de liturgie. Il semble qu'on soit, enfin moi c'est l'opinion que j'ai, maintenant ce n'est qu'une opinion, qu'on passe de la confrontation, comme on l'a connu depuis les années 60, à la réflexion, la négociation, l'interrogation, enfin voilà, me semble-t-il.
Oui, c'est ça, dans certaines sphères en tout cas, vous avez raison. Disons que la situation est d'abord celle d'une extrême faiblesse de l'institution ecclésiastique, aussi bien en France que partout ailleurs, mais particulièrement en France. Le maintien d'une célébration de la liturgie traditionnelle incompressible partout, en France tout spécialement, et puis ce qu'on peut appeler une politique ecclésiastique, une fin de pontificat, vous dites le Saint-Siège et...
le Saint-Siège, que je peux pas mettre de nom, je ne sais pas qui décide au Saint-Siège.
Des Roms, on pourrait dire, une certaine Rome, enfin une partie du personnel romain et des hauts prélats romains sont... très intéressé par les questions liturgiques, inquiet des dérives provoquées par la réforme de Vatican II. On parle à Rome même de bouniniste et anti-bouniniste. Donc, par exemple, à propos du remplacement du cardinal Medina à la tête de la congrégation du culte divin. Vous savez, c'est toute une affaire. Donc, qui va remplacer le cardinal Medina? En fait, personne ne le remplacera, vraisemblablement. Parce que, justement, on est en fin de pontificat et il va être prorogé jusqu'à la fin du pontificat.
C'est un peu ce qui s'est passé également pour le cardinal Ratzinger
qui avait arrivé à ce monsieur l'abbé.
Mais monsieur du Grand Air, oui.
Oui, pardonnez-moi, il faut peut-être rappeler à nos.
Qui est monsieur
Bonini.
Voilà. Oui, alors Bonini est le principal artisan de la réforme de Paul VI, du missel de 69 et puis de tous les autres livres liturgiques, non, sous le pontificat de Paul VI. Ça a été l'artisan, le fabricateur, enfin principal, avec tout ce qui était derrière lui. Donc, si vous voulez, c'est intéressant de voir qu'à Rome même, on parle à la curie, il y a des gens qui s'opposent. Bon, alors évidemment, avec des formes curiales, hein, bien sûr, et romaines. On est contre les exagérations de Bonini. Enfin, ça veut dire qu'on est contre Bonini.
C'est clair.
Et s'agissant de remplacer le principal responsable de la liturgie, à Rome, le cardinal Medina, dont la question se pose, qui ne se posait pas auparavant, de savoir si ce sera un bouniniste de bonne ligne, ou bien au contraire, un anti-bouniniste qui le remplacera. Et comme je vous dis, ni l'un ni l'autre, certainement.
Hein. Alors, j'ai peut-être une question à vous poser que vous
pouvez développer. Ni l'un ni l'autre jusqu'au prochain
Philippe Maxence.
Pontificat.
Jusqu'au prochain
pontificat.
Mais alors là,
parlez toujours bien près du micro, quand même, vraiment de très bons micros. Maintenant, très bon micro plutôt, mais il faut quand même parler devant, parce que on entend beaucoup moins bien, évidemment, ça marche beaucoup moins bien si on parle à côté. Une question, donc, à chaque fois que vous prenez la parole, je suis obligé de dire qui parle. C'est un confort d'écoute pour nos amis auditeurs, voilà. Je voulais vous poser la question, monsieur l'abbé Barthes, qui est un grand spécialiste des choses romaines. Je crois qu'on vient de publier, il y a deux ou trois semaines, une nouvelle édition typique du missel romain.
Du missel romain, oui.
Alors, ça veut dire que la précédente n'était pas typique, ou elle était atypique?
Je pense qu'elle est surtout atypique, y compris l'actuelle, qu'un jour, elle disparaîtra.
Il y a des changements, alors?
Oui,
plutôt dans le sanctoral ou dans le...
Il y a des changements. D'abord, il y a des fêtes nouvelles, il y a des petites modifications de ci et là. Grosso modo, c'est une nouvelle édition dans le sens d'une mise en ordre, si vous voulez. Là, le principal auteur, enfin bon, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais trop qui prend vraiment les décisions dans ces congrégations romaines, mais le secrétaire de la congrégation, Monseigneur Tamburino, qui est un bénédictin.
Oui.
Qui fait pas beaucoup de bruit.
En dépit de son nom.
Et qui est. Qui ne se voudrait ni bouniniste ni anti-bouniniste. Ce serait une espèce de centre dans le centre.
On avait même un Monseigneur Noé, d'ailleurs, qui lui se mouillait pas beaucoup non plus.
Oui, enfin, il se mouillait quand même plutôt dans le sens bouniniste. Oui. Tamburino est plus prudent. En réalité, c'est un bouniniste déclaré. Par exemple, il a fait un petit scandale quand le cardinal Medina est allé au Barou la dernière fois et en critiquant devant les membres même de la congrégation le cardinal pour ce voyage au Barou. On voyait un petit peu la ligne du personnage, mais qui n'est pas un excité et qui donc a fait une édition du missel qui va dans le sens de plus de dignité, moins de... C'est des petits bricoles, hein, ça ne change pas grand-chose.
Donc il n'y a pas, pas grand-chose de nouveau.
Non,
quoi.
Bon, le nouveau, c'est que... Et comme dit Philippe, on est en fin de pontificat. Ça, c'est finalement la principale nouveauté. Si on veut, enfin, depuis longtemps, mais enfin, qu'il y a un jour.
Puisque vous souhaitez parler de. Vous avez commencé, monsieur l'abbé Barthes, à nous parler des questions de liturgie. Peut-être on va commencer par les questions de liturgie, si vous le voulez bien.
Mmh. Et comme
puis
au concile.
Comme au concile. Puis on terminera sur les questions œcuméniques et dialoguantes, si vous le souhaitez. Philippe Maxence, vous qui êtes le laïc de cette assemblée, alors que ces questions de liturgie, vous en traitez souvent dans le nouveau. Mais alors vous avez peut-être un lectorat qui est moins sensibilisé au débat que les lecteurs de Certitude ou de
Moins
Catholica.
Sensibilisé, je n'irai pas jusque là. Quand nous avons publié récemment l'intervention de Mgr Raffin, évêque de Metz, dans notre enquête sur justement les réactions après la publication du livre du cardinal Ratzinger, L'esprit de la liturgie, Monseigneur Raffin, qui a explicitement attaqué le cardinal et par le cardinal attaqué aussi nommément Jean-Paul II, je peux vous assurer que j'ai senti parmi mon lectorat que la question liturgique était importante, qu'on ne la situait pas toujours très bien, qu'on se posait des questions plus d'ordre très pratique dans la vie des paroisses, mais qu'à partir du moment où un évêque attaquait des positions qui semblaient catholiques pour mes lecteurs, la réaction a été très forte.
Très forte. Vous avez des témoignages des gens qui écrivent.
Oui, non seulement j'ai eu des témoignages par un courrier que je n'avais jamais vu, par des coups de téléphone, enfin des appels téléphoniques qui sont allés jusque dans un public qui est habituellement considéré comme modéré, jusqu'à, j'allais dire, des insultes. Non seulement envers Mgr Raffin, mais envers moi-même, parce que je lui avais ouvert la porte et que je lui avais demandé de participer à ce débat, sachant très bien ce qu'il allait dire, mais je ne m'attendais pas, c'est vrai, à cette réaction d'un public, c'est vrai qu'on s'attendait moins perturbé par ces questions liturgiques.
C'est curieux.
Ça, c'était que, aujourd'hui encore, même pour un public qui vit de la liturgie de Paul VI, la question liturgique n'est pas réglée. Ça reste un problème qu'on ne situe pas au niveau des questions théologiques, ni même rituelles, mais un certain nombre de questions se posent. Je vous dis encore une fois, d'ordre très pratique, qui est la piété des prêtres, la fidélité au Saint-Siège, la façon de recevoir la Sainte Communion, enfin, etc.
Et tous les actes, enfin, toute la piété, la piété habituelle.
C'est un problème qui n'est pas réglé, voilà.
Monsieur l'abbé Barthes, monsieur l'abbé de Tannoir, ne croyez pas que vous ne parlerez pas, vous allez parler largement et longuement, tout à votre sou. Simplement, nous avons un autre prêtre au téléphone à qui que j'ai prié de bien vouloir se joindre à notre émission du Humet, c'est l'abbé François Pozzetto qui nous écoute en ce moment de sa lointaine province et à qui j'avais souhaité poser deux ou trois questions sur le prochain pèlerinage organisé par Notre-Dame de Chrétienté, le pèlerinage de Pentecôte prochain, qui est d'ailleurs le 20e du genre. Monsieur l'abbé, vous êtes là ?
Je suis là.
Eh bien, je vous salue et tous nos auditeurs sont heureux de vous entendre. Vous êtes en bonne compagnie ce soir, puisque monsieur l'abbé de Tannoir, monsieur l'abbé Barthes, monsieur Philippe Maxence sont dans ce studio, accompagnés de monsieur Yves-Marie Adeline, qui n'est pas prêtre, et de monsieur Grantaire, qui n'est pas prêtre non plus.
Très bien.
Alors c'est bien, il y a trois laïcs et trois prêtres, dont un par téléphone.
Je tiens, Daniel, à faire ce rectificatif, je ne suis pas prêtre, que mon épouse se rassure, si elle m'entend.
La parité est bonne.
La parité est à peu près qu'on a. Cher monsieur l'abbé, je voulais vous interroger plutôt sur le sens spirituel du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté de cette année. Le thème, c'est Chrétienté, chemin de sainteté.
Oui.
Et je voulais, après avoir reçu ici monsieur de Gestas, Vaquier et d'autres amis du pèlerinage, avoir l'aumônier, que vous êtes l'aumônier général de Notre-Dame de Chrétienté, et je voulais avoir un petit peu votre explication, votre commentaire spirituel sur le thème de cette année, donc Chrétienté, chemin de sainteté.
Eh bien, notre idée pour cette année correspond à la réalité de cette chrétienté qui doit nous conduire à la sainteté, avec, c'est-à-dire en posant les conditions nécessaires d'un ordre naturel déjà, qui puisse aider à l'épanouissement de la sainteté. Bien sûr que le thème n'est pas tout à fait peut-être théologique, mais les conditions déjà naturelles pour que la sainteté puisse monter de la terre comme dit Peggy. Et puis cette sainteté, eh bien, nous devons la chercher à travers non seulement les grands actes de nos vies, mais également à travers chacune des actions les plus simples, les plus humbles de notre sanctification.
Vous faites partie donc des prêtres et des catholiques qui estiment que la société, les normes sociales, l'organisation sociale peut-être un chemin de sainteté ou peut-être un chemin de perdition, suivant effectivement la qualité morale desquelles ces sociétés sont faites.
Je dirais suivant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, suivant l'enseignement de l'Église, particulièrement du grand pape Pie XII et Pie XI dans ce siècle, qui nous ont dit des choses absolument essentielles sur cette question de la nature que nous donnera la société. Eh bien, va dépendre beaucoup l'épanouissement de la chrétienté, l'épanouissement du christianisme. Donc les deux sont intimement liés. C'est les grandes questions de la question de la nature et de la surnature, de la grâce et de la nature, et toutes ces questions qu'il faut, dont il faut parler, qu'il faut traiter. Bien sûr que ce n'est pas exactement à l'objet d'un pèlerinage, mais enfin, on a quand même des grands moments de marche, des grands moments où l'on peut parler, nos chefs de chapitre, eh bien, enseignent.
Et méditer, et méditer aussi,
et
bien
méditer,
sûr.
Méditer. Et méditer, les prier. Alors, nous avons rattaché à ce thème la charte du chrétien, qui est le serment sur la montagne, et plus particulièrement la méditation des béatitudes, qui vont être un petit peu le fil conducteur de ce 20e pèlerinage vers Chartres.
Alors, soyons clairs peut-être pour nos auditeurs, pour que se faire bien comprendre. On peut devenir un saint dans n'importe quel type de régime. On en a vu des centaines et des milliers d'exemples tout au long de l'histoire. Mais il est vrai que suivant la forme que revêt une société, eh bien, elle est plus ou moins capable d'entraîner les gens vers leur fin dernière. En fin de compte, une société normalement organisée, elle a pour but de faire régner l'harmonie, la justice, l'harmonie entre les différentes personnes ou différents corps qui la constituent, mais elle a aussi vocation aux fins dernières. Le chef de l'État a non seulement une exigence au temporel, hein, il doit être le serviteur, le ministre au sens étymologique du terme, le serviteur de ceux sur lesquels il a autorité, mais il doit aussi les conduire à des fins dernières qui ne peuvent être que le ciel dans la religion chrétienne. C'est un petit peu l'esprit, je crois, qui irriguait ce qu'on appelle toujours l'ancien régime, comme s'il était vieux, alors qu'il est toujours neuf, hein, évidemment, comparé à ces sociétés laïques dans lesquelles nous n'en finissons pas de mourir, qui, elles, n'ont aucune fin dernière.
Exactement.
Voilà.
Nous sommes enlisés dans cette laïcité, dans ce laïcisme, dont nous n'arrivons pas à sortir, et nous n'en sortirons pas avec les nouveaux gouvernants qui sont en place depuis peu.
Oui, oui, et puis aussi peut-être, alors je veux pas dire, encore que tant pis, parce que moi je suis généralement bienveillant pour les évêques, mais comme mon camarade Philippe Maxence a commencé, oui, vous avez commencé avec, alors je renvoie les auditeurs ainsi que vous, mon cher camarade Abbé Pozzetto, parce que maintenant il faut faire très attention à ce qu'on dit, hein. Nous sommes sur Radio Courtoisie, donc maintenant il faut faire très très attention, c'est quand même une radio comme Radio Courtoisie, on peut débattre de questions de liturgie, de campos, c'est quand même, on peut pas dire que soit quand même universel, comme vous voyez.
Ah non.
Hein, on est quand même pas partout. Voilà, donc il faut la protéger, une petite radio comme ça.
Liberté.
Bah voilà, oui, mais c'est magnifique, mais ça a un prix.
Bien sûr.
Le prix, c'est 40 € de cotisation par an. Eh bah oui, c'est trivial, mais enfin, il faut le dire, des fois, des gens rushing parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui a dit une virgule ou un point de suspension ou un point d'exclamation qui n'a pas été exactement dans le sens que ça aurait voulu. Alors, on nous menace de toutes sortes d'abominations alors, c'est ridicule, quand même. Il faut au contraire se serrer les mains. Comment se présente, alors, ça, c'est le grand contexte spirituel, je dirais même, ça touche à la métaphysique, hein, tout ça, c'est quand même très très intéressant.
Ça touche à l'essence de ce pèlerinage qui était voulu comme pèlerinage de chrétienté.
C'est un
pèlerinage qui a vraiment une spécificité, en plus bien sûr de la liturgie traditionnelle qui est nôtre et que nous faisons nôtre, que nous voulons garder de façon exclusive sur cette route, il y a cet aspect qui est fondamental depuis le début et que nous voulons bien maintenir, même si c'est parfois, il faut le dire, difficile.
C'est difficile.
Dans le contexte général que vous connaissez bien, connaissent bien vos auditeurs.
Toujours difficile. C'était pas facile non plus pour les premiers apôtres, à ce qui paraît, d'après... Moi, je relis comme ça pendant la période de carême, j'en lis toujours le Nouveau Testament, puis on s'est dit quand même, c'était pas fastoche non plus. Puis pour les premiers chrétiens non plus, c'était pas facile. Enfin bon, voilà, bon, enfin bon.
Mais je veux dire, pour maintenir, si vous voulez, cette ligne, même dans un milieu traditionnel, parfois, c'est pas toujours des choses qui sont bien comprises.
C'est vrai.
Parmi notre jeunesse en particulier.
Oui, elle a besoin d'être aussi formée.
Exactement.
Elle a besoin d'être formée. Et tout le monde a besoin d'être formé. Comment se présente alors matériellement le pèlerinage? Alors il y aura du monde cette année, on sera combien, 152 ou 243?
Ah bah écoutez, ça s'annonce bien, et les chiffres sont toujours un peu difficiles à dire quelques jours avant parce que bon, là il vient d'y avoir des vacances de Pâques qui ont un petit peu diminué les inscriptions, mais elles arrivent quand même très nombreuses ces derniers jours. Nous pensons être au moins aussi nombreux que l'année dernière. et fervent, avec un nombre de chapitres à peu près identique, il y en a peut-être un petit peu plus cette année, je crois, un nombre de prêtres à peu près similaire également par rapport à l'année dernière. Donc c'est un pèlerinage qui se, je dirais, qui s'annonce bien.
Alors vous savez, il y a toujours la question rituelle, nous autres journalistes, qu'est-ce qu'on aime les scoops ? Alors y aura-t-il, je sais Philippe Maxence, mais je pose la question pour que l'abbé Pozzetto puisse y répondre.
Combien de cardinaux
cette année ?
Eh bien, nous avons fait petit cette année, il n'y aura pas de cardinal. Nous avons fait, c'est pas exactement petit, parce que ce serait pas bien de dire ça, nous avons fait un pèlerinage plutôt entre nous, pour bien marquer ce 20e anniversaire, et nous avons demandé à Monseigneur Vladimir de Saint-Jean, oui, qui est le père abbé des chanoines réguliers de la Mère de Dieu, de bien vouloir célébrer la messe pontificalement à la cathédrale de Chartres.
Donc c'est
lui qui célébrera. Nous ne savons pas si Monseigneur Aubertin, évêque de Chartres, sera là parce qu'il a été malade. Ah. Il va mieux, il est en convalescence. Enfin, sera-t-il là, nous ne savons pas. Et nous aurons au départ Notre-Dame de Paris, un délégué, un envoyé du cardinal Lustiger, qui viendra comme ces dernières années pour nous dire un petit mot.
Eh ben, c'est bien urbain de sa part.
Voilà.
Alors, on vous remercie beaucoup, mon cher abbé. Avez-vous encore un petit commentaire à faire ou...
Ben, le petit commentaire, c'est pour tous nos futurs pèlerins. Eh bien, d'abord, ils ont encore le temps de s'inscrire directement à Notre-Dame de Chrétienté.
Donc je rappelle, l'adresse est 49 avenue de Paris, 78000 Versailles. 49 avenue de Paris, 78000 Versailles.
Voilà.
Je crois que le téléphone du secrétariat, qui est plutôt joignable dans l'après-midi,
oui,
me semble-t-il,
oui,
c'est le 01 39 07 27 00.
Absolument.
Oui, j'avais mes petites fiches. Hein. Alors, croyez pas que je connaisse tout ça par cœur, parce que moi, je suis un vieillard maintenant, donc ma mémoire commence à flancher. Alors, je fais mes petits antisèches. Alors, c'est 01 39 07 27 00.
Exactement. Et puis, alors, donc, ça c'est au point de vue matériel, mais c'est nécessaire pour nos équipes. Si on peut s'inscrire, c'est mieux. Et puis, venir en force pour fêter ce 20e pèlerinage. Et puis, deuxièmement, message un peu plus spirituel, disons bien préparé pendant la neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte que fait toute l'Église, mais que nos futurs pèlerins et tous ceux qui veulent nous rejoindre, également ceux qui nous rejoignent et qui ne peuvent pas marcher, que nous associons par les pèlerins non-marcheurs, eh bien fassent bien cette neuvaine préparatoire à nos pèlerinages qui vont marcher là bientôt sur les routes de Chartres.
Merci monsieur l'abbé, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans Radio Courtoisie, notamment dans ma modeste émission.
Merci
et puis
beaucoup.
Je vous souhaite le meilleur, une sainte et joyeuse ascension et puis un pèlerinage formidable pour la Pentecôte où j'aurai l'avantage de vous saluer sans doute le lundi de Pentecôte.
Voilà,
parce que moi j'ai un adulte, j'ai pas besoin de marcher.
Je vous remercie, je salue bien vos invités, en particulier mes confrères.
Qui sont là, qui ont été très très attentifs.
Voilà.
Cher abbé Pozzetto, que Dieu vous garde, à très bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc vous avez entendu M. l'abbé François Pozzetto, qui est aumônier de Notre-Dame de Chrétienté, qui nous a donné quelques indications plutôt spirituelles sur le sens du 20e pèlerinage de Chrétienté, qui va se passer pendant le week-end de la Pentecôte, sur le thème Chrétienté, chemin de sainteté, donc Notre-Dame de Chrétienté, 49 avenue de Paris, 78000 Versailles. Voilà, je suggère à nos amis auditeurs d'aller à ce pèlerinage ou d'aller au pèlerinage de tradition qui lui va aller de Chartres à Paris. L'un dans l'autre, on peut discuter, mais c'est mieux que d'aller à la fête de lutte ouvrière, par exemple, vous voyez, qui se passe à la même période. Je le dis, au cas où, hein. Voilà.
Alors, la fête de lutte ouvrière doit être assez distrayante quelque part, mais enfin.
Voilà.
Il n'y a pas de messe.
Oui, il y a moins de messe.
Moins édifiante.
Moins sanctifiante.
Voilà, il y a moins de
messe.
Mais
à mon avis, il y a plus de fanatisme.
Oui, sans doute.
D'intégrisme.
Voilà, alors donc, je redis encore une fois, parce que la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais j'ai fait un petit message, bon, et je le dis en présence de l'abbé de Tannouard, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, je vais parler du Père Jésus de Chrétien 2, parce que personne ne m'a téléphoné ou m'a contacté pour parler de l'autre. Personne. Bon, alors peut-être qu'ils ont, peut-être, je sais pas, je sens le pâté ou j'ai une tête qui revient pas. Moi, je suis très écuménique et dialoguant, donc c'est bien ce que j'ai dit écuménique. Bon.
Cela dit, je peux éventuellement dire quelques mots, au moins du thème, parce que.
Ah bah, tiens,
moi, je
veux
dire que je.
Voilà,
je
vous avez
pas...
deux minutes pour parler du thème.
Va faire la relation presse.
Non, c'est pas ça. Oui, c'est tout à fait impromptu et inattendu, parce que je suis pas un grand pèlerin, moi, personnellement, mais, effectivement, donc, la Fraternité Saint-Pélis organise
aussi son pèlerinage de Chartres à Paris sur le thème de l'Église protectrice de l'enfance. Et je crois que c'est un thème d'actualité. On connaît, on sait ce qui se passe et comment l'Église des États-Unis est complètement sans dessus-dessous à cause des affaires de pédophilie, etc. Et je crois que c'est important de dire que au-delà de ces affaires très pénibles aux États-Unis et qui ont d'ailleurs été largement exploitées par un certain nombre d'officines, comme dirait Jean Ferré, puisqu'il y a des journaux qui vont jusqu'à proposer des récompenses à qui dénoncera un prêtre. Enfin bon, c'est le wanted américain d'une sauce un petit peu spéciale. En fait, on est quand même en train de voler leur enfance à nos enfants dans cette société indifférenciée, dans cette société dans laquelle on va à grands pas et qui ne supporte plus les différences. Qui ne supporte plus les différences entre les gens selon leur culture d'origine, qui doit être mise entre parenthèses, qui ne supporte plus les différences entre hommes et femmes, mais qui ne supporte plus non plus les différences entre les adultes et les enfants. Les enfants doivent être des petits adultes. Hein. Et je crois qu'effectivement, l'Église a là un mot à dire et elle doit dire que elle protège l'enfance et qu'elle accepte justement cette différence de l'enfance.
Pour parler moderne,
il s'agit pas de voler leur enfance à nos enfants.
Voilà. Elle a plus qu'un mot à dire. Elle a, pour parler moderne, elle a une parole à porter.
Voilà. Donc je crois que le thème de ce pèlerinage est tout à fait d'actualité.
Et puis l'enfance, c'est notre avenir. De l'enfant à naître à l'enfant né, c'est la production, c'est la protection que toute société normale, toute société régulièrement constituée doit aux plus faibles, aux plus petits, à ceux qui ont le plus besoin de protection. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que nos sociétés, elles vont dans le sens absolument contraire, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont d'une dureté impitoyable pour les plus pauvres, pour les plus faibles, y compris pour ceux qui ne peuvent même pas se défendre, qui n'ont pas de voix pour se défendre, que sont les enfants dans le ventre de leur mère ou les tout petits bébés qui ne peuvent s'exprimer que par des pleurs ou des cris. Et c'est à cela qu'on juge la civilisation, c'est l'attitude qu'on aura vis-à-vis des plus faibles. C'est tout le message de l'Évangile, en fin de compte. Hein. Et les civilisations, enfin les sociétés qui sont dures avec les plus faibles, c'est des sociétés de barbares. C'est des barbares dans lesquelles, d'ailleurs, nous vautissons, alors, avec une délectation. Bien, enfin, passons. Je me tourne quand même une seconde. Merci, mon cher abbé de Tannoir, de ces précisions. Peut-être pourriez-vous donner l'adresse de pèlerinage de tradition. voilà. Alors que je ne veux plus jamais qu'un seul auditeur me reproche de ne pas parler
de ce Daniel, vous auriez quand même pu me dire.
Ah, voilà, c'est à moi.
Vous m'avez appelé, l'abbé Pozzetto doit parler du pèlerinage. Si vous pouviez, cher abbé, en dire deux mots, je me serais enquis d'adresse, de téléphone, etc. Mais ce que je peux dire aux auditeurs. Ce que je peux dire aux auditeurs, c'est qu'ils peuvent tout à fait venir à Chartres, donc samedi,
au départ
du pèlerinage, et qu'ils seront accueillis à bras ouverts, bien entendu.
Et est-ce qu'éventuellement
samedi de Pentecôte, bien sûr. C'est assez tôt le matin, hein, mais
oui.
Où il y a la messe sur place et puis le départ.
Est-ce qu'on peut donner le numéro de téléphone de votre revue ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Oui, voilà, comme ça, voilà. C'est le 01 45 78 00 53.
Voilà, pour l'instant, il n'y a personne. Hein.
Ah non, mais
pour l'instant, ce soir.
Ce soir, il n'y a personne.
Hein, mais... Et puis mais... demain non plus. Et puis, vous voyez, c'est le problème des jours fériés.
Je peux briser le mien.
Mais.
Alors, vous êtes prié de ne pas demander d'extrême onction pendant le pont de l'Ascension, s'il vous plaît. Donc, je répète, le numéro
de
certitude, c'est 01 45 78 00 53. Vous pouvez appeler à partir de vendredi. Et là, on pourra vous aiguiller, vous orienter vers l'association Pèlerinage de Tradition.
Voilà.
C'est le nom de l'association qui organise l'autre pèlerinage traditionnel ou traditionnaliste qui, lui, va de Chartres à Paris.
C'est rue Poliveau, mais alors je ne me souviens plus du numéro exact.
Mais je pense qu'en le demandant gentiment à des auditeurs, je suis sûr que dans les quelques minutes ou quelques secondes qui arrivent, nous allons avoir plusieurs fax qui vont nous donner toutes les coordonnées. Je serais tout à fait heureux de les donner à l'antenne. Voilà. Alors je me tourne maintenant maintenant vers Victoria qui a reçu quelques messages. Et peut-être auriez-vous des choses à nous dire.
Ces querelles liturgiques ont-elles vraiment de l'importance, étant donné que Jésus disait à la Samaritaine « Le moment vient où vous n'adorerez plus Dieu sur cette montagne ni à Jérusalem. Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. »
Bah oui, mais
alors je serais d'accord pour faire une réponse théologique trop difficile à cet auditeur qui me semble avoir soulevé un lièvre, parce que adorer en esprit en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'évangile de Saint Jean, dont cette phrase est tirée, la vérité c'est toujours le Christ lui-même. Hein. Donc je suis la voie, la vérité et la vie. Vous savez, il n'y a pas un homme qui a dit des choses aussi folles dans toute l'histoire de l'humanité. Et si le Christ les a dit, bah, c'est que c'était la vérité, tout simplement. Alors ça ne peut être que ça, hein. Comme dit Tertullien, je crois parce que c'est absurde. C'est tellement fou que ça ne peut être que cela. Alors, adorer en esprit et en vérité, c'est adorer dans la vérité du Christ, c'est-à-dire dans la prière du Christ. Et là, on est au cœur du problème liturgique, parce que finalement, qu'est-ce qui oppose l'ancienne et la nouvelle liturgie, pour les auditeurs qui tombent sur cette émission un peu par hasard? Eh bien, je crois qu'on peut dire très simplement, la nouvelle liturgie veut être une action du peuple de Dieu. L'ancienne liturgie se présente comme une action du Christ, et le prêtre qui célèbre à l'autel est simplement l'instrument du Christ. Alors voyez, adorer en esprit et en vérité, c'est adorer dans l'esprit du Christ, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit c'est l'esprit du Christ effectivement, et dans la vérité du Christ, dans le sens où c'est d'une certaine manière à la messe le Christ lui-même qui prie. Et pourquoi nous sommes tellement attachés à l'ancienne liturgie? Et parce que toutes les prières que nous pouvons bafouiller humainement ne sont rien à côté de cette merveilleuse prière du Christ, prière mystérique, si vous voulez, où le sujet réel de la prière, c'est le Christ, qui nous prend dans sa prière. Voilà. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il ne s'agit pas de rite, d'une génuflexion de travers, de savoir si le prêtre dit tout haut ou tout bas telle ou telle partie, etc. Il s'agit de savoir qui est le sujet de l'action sacrée. Et il s'agit de savoir si les hommes sont capables d'une prière agréable à Dieu. Mmh. Et je suis désolé de dire que malheureusement, de notre propre fond, nous ne pouvons pas tirer grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, à la messe, nous sommes sûrs de prier parce que nous prions dans la prière du Christ. Voilà, ça c'est merveilleux. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, hein, pure.
Oui, c'est le fond du sujet.
L'abbé Barthes.
Et si je peux ajouter quelque chose, la parole du Christ dans l'Évangile selon saint Jean, en esprit et en vérité, va explicite la fin de la liturgie judaïque, dans le remplacement du culte en esprit, du culte charnel par le culte en esprit. Et il me semble que, analogiquement, on peut dire qu'il y a une régression par la nouvelle liturgie vers quelque chose de plus charnel, ce que dit l'abbé Tannoir est juste, mais il y a aussi cet aspect, disons, de convivialité, de profanation, au sens de, on va vers le profane, une liturgie qui soit mieux adaptée à un monde désacralisé, donc une profanation, en ce sens-là, c'est un thème, Dieu sait, du cardinal Ratzinger, et de ce point de vue-là aussi, un retour vers quelque chose de plus charnel, l'ancienne liturgie étant perpétuellement nouvelle. Alors, les formes, etc.
Ce que vous avez dit, messieurs les abbés, est quand même très, très intéressant pour faire comprendre. Je crois que beaucoup d'auditeurs le comprennent et vivent également ce drame. C'est que la question de la liturgie, c'est comme le disait bien l'abbé Tannoir, c'est pas seulement une question de nombre de nappes sur l'autel, encore que le symbole ait un sens et puisse avoir une certaine essence. C'est quelque chose de fondamental. C'est qu'est-ce que c'est que l'action liturgique?
Le symbole, c'est aussi l'esprit.
Oui, c'est tout à fait vrai, si vous voulez.
C'est une chose qu'on a totalement perdue.
C'est vrai, mais là, c'est une question. C'est une éducation au symbole. Voilà. On éduque les gens à comprendre le sens caché ou spirituel qu'il y a derrière un geste, un objet, une attitude, bon, etc. Mais ça, c'est l'aspect plutôt visible. Mais il y a l'aspect invisible, l'abbé Tanner l'a dit, bon, c'est que la liturgie, ce n'est pas une scène protestante, ce n'est pas une réunion de prières, même
voilà,
si, même si elles, elles sont à recommander en d'autres moments. On peut se réunir pour prier le chapelet ou pour prier ensemble à une intention, on peut faire toutes sortes de choses. Mais là, c'est très différent. C'est la prière sacerdotale du Christ.
Oui,
c'est
qui conduit au Christ.
Exactement. C'est l'aller-retour continuel. Oui. Philippe Maxence, alors vous aviez... Bah oui, vous avez aussi des commentaires à faire là-dessus.
Je crois que les abbés ont dit des choses très intéressantes.
Défendez, il y a une constitution sur les laïcs dans le sacro-saint concile Vatican II. Faut défendre notre beau drap.
Tout est fait, mais là... N'étant pas théologien moi-même, je ne me permettrai pas de me placer sur ce terrain. Je remarque juste, concernant la nouvelle liturgie comme l'ancienne d'ailleurs, c'est qu'elle nous est donnée par l'Église et de ce point de vue-là, elle me semble qu'elle peut être considérée comme la prière du Christ, puisque il ne me semble pas qu'on puisse séparer le Christ de son Église.
C'est difficile de le penser, en tous les cas.
En tous les cas, c'est difficile.
Je ne le pense pas. Mais ce que je voulais dire, et pour vous faire rebondir les uns les autres, c'est que on est quand même passé, me semble-t-il, des années 60 à ces quelques années qui viennent de s'écouler, ou au temps présent, à ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, comme une espèce de présentation générale, à une confrontation ou une espèce d'aveuglement sur les intentions des uns et des autres, à plus de réflexion. Il me semble que même dans l'Église officielle hiérarchique, cette fois-ci à très haut niveau, au niveau du cardinal Ratzinger ou d'autres, bon, on revient à une, même si le dernier ouvrage du cardinal Ratzinger, fort intéressant par ailleurs, péchait. Pardonnez-moi, votre éminence. Enfin, me semblait être incomplet dans la mesure, par exemple, sur l'offertoire.
Mais par exemple,
rien du tout. Bon, c'est quand même un petit peu parce que ça me semble quand même.
Enfin, il a suffi à provoquer des réactions très vives.
Mais c'est très important.
Comme celle du Père Gilles.
Oui, mais alors des réactions contradictoires dans l'Église officielle. Je mets des guillemets. Hein, ça ne s'entend pas à la radio. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de prêtres qui sont des prêtres de paroisses, hein, de paroisses de tous les coins de France, qui vraiment à qui j'ai eu des discussions très intéressantes sur les questions liturgiques et qui sont très traditionnelles de penser sur ces questions-là. Ça montre quand même que les choses ont beaucoup évolué. Allez-y, monsieur l'abbé, parce que je sais qu'en plus vous avez les trains n'attendent pas. Vous avez deux choses possibles. Oui, ils partent à l'heure, c'est nous qui sommes en retard, ou nous sommes à l'heure et c'est eux qui ne partent pas.
Ce qu'a dit Philippe Maxence, c'est arrivé à la question que vous voulez nous poser sur Campos.
Voilà, oui.
Bon, je vous aide.
Bien sûr, non, c'est gentil.
Vous voulez faire l'émission à place, peut-être?
Absolument.
Très bien. Écoutez, vous soufflez la lumière en partant.
Non, Philippe Vincent dit la liturgie est donnée par l'Église, donc nouvelle liturgie comme ancienne liturgie. Oui, mais justement, c'est là qu'intervient quelque chose de très intéressant à l'heure actuelle. C'est que la nouvelle liturgie semble douter d'elle-même. Et de la même manière que le concile Vatican II est un concile atypique...
Donc, sur les hommes qui commencent à douter de la nouvelle liturgie.
Ce qui revient même.
Mais les hommes qui la célèbrent, et ça c'est
qui la célèbrent,
et quand même une vérité expérimentale.
Et les hommes qui la...
Pas tout à fait, là.
Ne vous coupez pas tous, parce que... Attendez, déjà M. Labbé Barthes, et puis ensuite vous allez pouvoir, Philippe...
Oui, donc je disais, le concile Vatican II lui-même est un concile atypique du fait d'une autorité qui est incertaine et qui semble douter d'elle-même. De même, la nouvelle liturgie, et du fait même des hommes qui sont en charge de cette nouvelle liturgie, maintenant les cardinals Medina. Et ce qui est très intéressant dans l'affaire de Campos, me semble-t-il, c'est que donc on officialise, bon, ce fait même par les discussions avec la Fraternité Saint-Pilice, par les diverses permissions qui sont données, qui peuvent être discutables toutes, hein, à savoir on demande une permission. Bon, c'est pas mon affaire, si vous voulez. C'est très intéressant du fait, donc, il semble que la nouvelle liturgie ne se donne plus pour obligatoire. La fameuse question du birritualisme que vous aviez évoqué avec Christophe Geffroy dans le livre sur les 10 ans d'Ecclesia Dei rentre aussi dans cette affaire-là. C'est quand même énorme, cette affaire de birritualisme, qu'on puisse en parler et que ça puisse être évoqué par quelqu'un comme le cardinal Ratzinger. C'est aussi très intéressant en soi, c'est énorme, puisqu'il s'agit de deux états
du rite romain successif, l'un qui remplace l'autre. Donc il n'y a pas de biritualisme possible. Il y a une réforme qui remplace, comme une réforme peut remplacer. Simplement, elle est tellement énorme, cette réforme. Elle touche tellement de choses. Elle est tellement radicale. Elle change si profondément la théologie de la liturgie qu'on peut se dire, mais non, c'est pas une, ça n'est pas la même liturgie. Donc on va dire, il y a deux rites. Et oui, peut-être qu'il y a en effet deux rites. En fait, à mon avis, il n'y en a qu'un. Mais le fait même du débat, le fait même de l'affaire de Campos, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, prouve bien que la liturgie de l'Église, point d'interrogation.
Oui. Philippe, Monsieur l'abbé Tannoir, vous dites... Ah non, pardon, excusez-moi, les auditeurs.
Non, puisque surtout une auditrice qui n'était pas arrivée au tout début de l'émission, vous demande si de redire qui est Philippe Maxence et où il écrit. Et,
Philippe Maxence est le rédacteur en chef de L'Homme Nouveau. Voilà. L'Homme Nouveau, dont l'adresse est 10 rue Rosainvalde, Paris 15e. 10 rue Rosainvalde, Paris 15e. Je le dis aussi parce que peut-être qu'on va me poser la question. L'abbé Guillaume de Tannoirne est le directeur, le directeur de la revue Certitude, 23 rue des Bernardins, Paris 5e. Et monsieur l'abbé Claude Barthes est le chroniqueur religieux de la revue Catholica. Alors c'est un peu plus compliqué, là prenez vos crayons. Boîte postale 246, 91 162, L'Enjumeau Cedex.
Un auditeur demande, pensez-vous que le cardinal Ratzinger puisse jouer un rôle de conciliateur entre la branche traditionnaliste et l'Église Vatican II ?
Alors, quelqu'un voudrait répondre à cette question ? Pensez-vous que le cardinal... Ah ben, si vous n'écoutez pas les questions, il va vous être très difficile d'y répondre. Alors, vous pouvez redire cette question, parce que les abbés sont perdus dans la lecture, non pas de leur bréviaire, mais des messages qui arrivent.
Pensez-vous que le cardinal Ratzinger puisse jouer un rôle de conciliateur entre la branche traditionnaliste et l'Église et Vatican II ?
Question un
silence
peu...
Silence éloquent.
Ben oui, parce que la question est peut-être...
Non, je pense que le cardinal Ratzinger a un rôle très important à jouer, parce qu'étant donné sa compétence et sa position et son ancienneté dans sa position, puisqu'il est donc le numéro 2 dans l'Église, ou à peu près, enfin il est donc le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et il l'est depuis des années et des années, donc on ne peut pas dire qu'il ait grand-chose à perdre. Son rappel de la question liturgique que tout le monde voulait taire est important, mais je dirais il suffit pas de rappeler l'importance de la question liturgique. Il faudrait aussi pouvoir prendre des décisions qui soient claires et qui permettent, dans la ruine actuelle de l'Église, à ceux qui veulent demeurer fidèles, de le faire sans être sûr d'être flingués par leur propre chef. C'est tout le problème actuellement.
Alors, Campos, il nous reste 10 minutes avant que monsieur l'abbé Barthes nous quitte.
J'avais encore de tout petits messages. Parler à plusieurs reprises de fin de pontificat, c'est un peu enterrer grossièrement sa sainteté.
Non, mais attendez, on veut l'enterrer, et on ne va pas l'enterrer grossièrement de toutes les manières. Il aura le droit à tous les égards qui sont dus au chef de l'Église, catholique. Mais il faut reconnaître que, sauf miracle, et les miracles peuvent arriver. Les miracles peuvent arriver. Il suffit, l'Évangile est plein de miracles extraordinaires. Sauf miracle particulier, il est vrai que l'état de santé, l'état physique du pape est vraiment à tirer les larmes des yeux, parce que c'est vraiment une souffrance extraordinaire. Et, bon, non, on peut plus très bien comprendre ce qu'il dit. Enfin, lui-même,
il n'achève pas ses discours.
Enfin, c'est terrible. Bon, c'est une fin de pontificat très 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 douloureuse pour lui, évidemment, et pour nous qui sommes de l'Église. Encore une question, non ? Oui.
Pensez-vous que le Saint-Esprit dirige l'Église et que le Christ a dit « Pierre, je prierai pour toi, afin que ta foi ne te quitte pas ».
Ah bah là, c'est les grands débats, oui.
Là, c'est très simple, c'est pas quelque chose qu'on pense ou qu'on pense pas. Qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc.
Non, qu'est-ce que vous pensez du péché? Mal.
C'est du Saint-Esprit.
Campos.
Alors, Campos, parce que monsieur l'abbé Barthes nous quitte dans 10 minutes, donc nous prendrons la lecture des messages, mais vous trouvez ça positif, pas positif, encourageant, digne d'être étudié par nos amis de la Fraternité Saint-Pidis, alors que chacun s'exprime librement, que mille fleurs s'épanouissent.
Oui, moi je n'ai qu'un avis externe, bien sûr, mais c'est une affaire qui est interne, la Fraternité Saint-Pédiste. Mais je l'ai déjà dit un petit peu. Bon, évidemment, c'est toujours ambigu de demander une permission quand on est on est plus que minoritaire, on est une part écrasée par une idéologie, on peut dire, hein, qui est celle de l'esprit du concile et de la nouvelle liturgie. Bon, le principe même de laisser nous faire l'expérience de la tradition est en soi très ambigu. Donc, à ce point de vue-là, en effet, de manière externe, on peut critiquer l'affaire de Campos, ils vont se faire avoir, etc., enfin, tout ce qu'on a pu dire sur cette affaire. Mais par ailleurs, et compte tenu du contexte actuel et du fait même que cette nouvelle liturgie est, pose des questions à ceux-là même qui en sont en charge, tactiquement, disons, c'était, je crois, la position de l'abbé Olagnier que je rejoindrai sur ce point-là. Tactiquement, l'affaire de Campos est intéressante.
Alors, l'abbé Olagnier est un membre de la fraternité Saint-Pie-X.
Saint-Pie-X, c'est ça, oui. L'affaire de Campos, puisqu'elle peut avoir un effet de déstabilisation du nouveau système liturgique. Voilà comment je vois les choses.
Dans la mesure où elle accorde une faculté, c'est bien, en tout cas, c'est ce que me dit l'abbé Olagnier, donc je le répète. Où elle accorde une faculté de célébrer la messe traditionnelle à des prêtres qui l'ont toujours célébré toute leur vie d'ailleurs, mais enfin.
Peu importe, elle rend officielle, encore une fois, c'est pas ma tasse de thé si je puis dire, mais elle rend officielle un système liturgique donc, qui est l'antithèse du système liturgique en place dans un petit diocèse. Bon. Parabole, hein, qui vaut ce qu'elle vaut. Supposons que vous ne soyez pas démocrate.
Pure supposition, monsieur l'abbé. Hein.
Donc, la démocratie dans le système, la France démocratique, vous accorderait, je ne sais quoi, une enclave dans laquelle vous pourriez exercer un régime. Voilà, comparaison n'est pas raison, hein, j'entends bien.
Oui, l'analogie, là, a quand même certaines limites. C'est que l'Église n'est pas simplement une société naturelle.
Oui, tout à fait. Oui,
c'est important de ce que j'entends en esprit de système, oui, etc. Oui. On est quand même en train de parler d'une institution.
Je parle de l'esprit du concile et de la nouvelle liturgie
qui n'est pas un objet en soi
qui est comme greffé sur
qui vient
une institution et qui lui fait grand mal
d'une institution
qui lui fait grand mal.
Moi, je ne connais pas de société révolutionnaire qui ait permis à des sociétés contre-révolutionnaires ou de tradition je parle de société évidemment, hein, de se constituer, de s'enquister et de vivre, etc. Ça n'existe pas. Bon, alors l'Église, évidemment, comme dit notre ami Philippe Maxence, c'est quand même autre chose. Elle est faite, ce sont des hommes, hein, comme nous sommes tous pécheurs, et nous sommes tous des baptisés, donc nous sommes tous membres de l'Église, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, comme on chantait autrefois. Dans mes églises à vous, c'est dans les vôtres, je pense pas à la métalleur, non. Enfin, c'est juste, c'est juste. Vous avez encore 5 bonnes minutes, monsieur l'abbé Barthes.
Cette histoire est en clair, mais quand même. Important, je crois que Philippe Maxence a raison de mettre le doigt là-dessus, parce que nous ne visons pas à être une enclave dans l'Église, nous ne visons pas à défendre notre petit bout de gras ou notre droit à exister, ça à la limite peu importe, enfin nous pensons, nous traditionnalistes, que nous avons un combat qui nous dépasse, qui dépasse nos petites personnes, qui dépasse nos convenances, nos facilités, et qui est le combat de la messe tel que j'en parlais tout à l'heure, qui est essentiel à l'Église tout entière. C'est pour ça que, si vous voulez, obtenir une facilité sur telle portion du territoire, ou d'ailleurs sans aucune portion de territoire, pour telle portion du peuple de Dieu, portion qui doit être écrite, qui doit inscrire son nom dans un album prévu à cet effet, comme dit le texte latin, hein, puisque les catholiques de Campos, qui sont reconnus par Rome, le seront à condition qu'ils écrivent leur nom dans un fichier. Eh bien, si on en est à ce point, si vous voulez, de cultiver une particularité et finalement de jouer les derniers des Mohicans spirituels écrits dans le grand registre de la réserve, non pas de peau rouge, mais de la réserve d'intégristes qu'on a bien voulu ouvrir à tel endroit, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. L'intérêt, je crois, pour tous, et je dis pour tous, il s'agit du bien commun de l'Église tout entière et de tous nos frères chrétiens, c'est que la messe traditionnelle retrouve le droit absolu, inconditionnel, d'être célébré partout.
Et surtout que la messe nouvelle la fait disparaître, d'une manière ou d'une autre, avec une transition, bien entendu.
Mais oui, à la limite, si vous voulez que la messe nouvelle disparaisse, peut-être non, ça, c'est pas tout à fait de mon ressort, je suis pas encore pape.
Oui, non, mais...
mais
Ce
qui est de mon ressort en tant que prêtre, et ce qui est du ressort de tous les auditeurs qui sont chrétiens, c'est de demander, d'exiger d'avoir le droit inconditionnel de célébrer ou d'assister pour l'église, à la messe traditionnelle.
Vous avez raison, bon, bien sûr, là aussi c'est un pas de plus que Compost, mais ça n'est pas suffisant. Vous êtes encore dans l'enclave.
Qu'on se mette dans une logique d'enclave, excusez-moi, extrêmement dangereuse.
Lorsque vous avez traité avec le cardinal Castrillon, à ce propos, je vous ai dit, et je l'ai dit ici, c'est bon, là aussi c'est une permission, là aussi ça n'est qu'un pas, mais il était très intéressant, il eût été très intéressant que soit accordé à tous les prêtres de l'église la faculté, le droit, enfin peu importe, la possibilité en tout cas de dire la messe traditionnelle.
Le droit, moi je pense que...
Très bien.
Mais vous savez, on peut vous la retirer.
Deux choses l'une, ou bien la messe est mauvaise, elle n'est pas. Mais c'est sûr. Alors,
si elle est bonne, il faut un droit.
Mais oui. Peu importe, c'est un pas si on veut, mais ça n'est pas suffisant. C'est quelque chose dans la même ligne que Compost. Fort intéressant, certes, beaucoup plus intéressant encore que Compost. Je ne défends pas Compost en soi, si je dis c'est un phénomène intéressant, et de même qu'était extrêmement intéressant le fait que vous ayez demandé au cardinal Castrillon la possibilité pour tous les prêtres de l'Église de pouvoir célébrer la messe traditionnelle. Ça a été encore plus déstabilisant. Mais ce n'est pas... C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin encore. Je veux dire qu'il faut...
Qu'il puisse la célébrer officiellement. Parce
et
que
quand vous parliez du cardinal Ratzinger, quand un auditeur demandait si le cardinal Ratzinger peut être un médiateur, oui, je le crois, et même peut-être plus que ça, lui et d'autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent préparer ce que nous voulons tous, un retour à un ordre liturgique, et qui passera nécessairement par une transition, donc des étapes. Et le cardinal Ratzinger, d'autres encore, hein, il n'y a pas que lui, peuvent être ces hommes des étapes de la transition, mais ce qu'il faut viser, c'est ce retour à une liturgie dans l'esprit du Christ.
Bon, monsieur l'abbé Barthes, vous êtes, je vous laisse, il est moins 5, nous avions prévu que vous seriez là jusqu'à moins 5, maintenant vous avez votre train, vous savez que la SNCF, quand elle n'est pas en grève, est tout à fait à l'heure, donc il faut se méfier beaucoup. En tout cas, nous aurons l'occasion de vous réentendre bientôt sur Radio Courtoisie, peut-être dans un mois et demi, on refera une table ronde sur d'autres sujet d'actualité. Merci beaucoup et je rappellerai tout à l'heure en fin d'émission l'adresse de la revue Catholica. Je vous souhaite un très bon voyage et de saintes fêtes de l'Ascension. Philippe Maxence, vous vouliez...
Oui, deux réactions toutes simples. Encore une fois, dans les ligues de base, j'insiste. Quand j'entends dire que Campos représente une enclave, quelque chose de... auquel on a accordé la messe, la célébration de la messe de Saint-Pie V, mais de toute façon prisonnier et que ça représente une fraternité qui sera celle des derniers Mohicans, je me dis que de toute façon la situation c'est une situation assez similaire à ce qu'est celle de la fraternité Saint-Pie X, qui représente une autre enclave avec d'autres difficultés et d'autres libertés. Donc c'est pour l'instant c'est enclave contre enclave, et puisqu'on parlait stratégie, je vois pas très bien pour l'instant, en restant dans cette logique de la stratégie qui vraiment me semble pas la plus adaptée quand il s'agit de l'Église, c'est deux stratégies différentes, mais de deux enclaves de toute façon.
Oui. C'est enclave contre enclave,
en terre,
ça ne soit un jour conclave contre conclave.
C'est pas qu'un mot d'esprit.
Oui, ce n'est pas qu'un mot d'esprit. Oui. J'ajouterai enfin que quand l'abbé Barthes dit « nous attendons tous le règlement de cette question liturgique », je voudrais qu'on retombe un peu sur terre, parce que nous attendons tous, malheureusement, je dirais, que la plupart des chrétiens ne se sentent absolument pas concernés par cette question-là, du moins à ce niveau-là. La question liturgique les intéresse dans la mesure où ils veulent que leurs prêtres célèbrent la messe
avec une certaine dignité et une certaine fidélité aux instructions du Saint-Siège. Mais pour le reste, ce dont nous parlons, que ce soit Campos ou que ce soit de la possibilité de célébrer avec toute liberté la messe de Saint-Pie V, ça passe vraiment au-dessus de la plupart des catholiques de France et du reste du monde.
Monsieur l'abbé Tannouard, vous pouvez réaliser.
Parce que je crois que d'une manière tout à fait élémentaire, et là j'en reste à un point de vue élémentaire, le fait que beaucoup de fidèles aient constaté que la messe à laquelle on leur demandait d'assister naguère, il y a 30 ans, 40 ans, n'arrêtons pas sur les dates, parce que je voulais juste vous répondre. La messe à laquelle on leur demandait d'assister avant le concile, disons les choses, sous peine de péché mortel, redisons les choses, aujourd'hui elle est interdite. Et elle est interdite, non pas sous peine de péché mortel, mais enfin, elle est en pratique, il n'y a pas de décision juridique, mais en pratique, le prêtre qui désirerait reprendre cette messe, et Dieu sait que j'en connais, je pense que Daniel en connaît aussi beaucoup, et que l'abbé Barthes fait beaucoup pour tous ces prêtres qui essayent de revenir à la messe traditionnelle, eh bien, ils risquent leur tête. Bon, il y a quand même là un problème. Est-ce qu'on peut déclarer interdit quelque chose qu'on a tenu jusque-là comme le plus précieux du plus précieux? Il y a un problème de continuité institutionnelle, si vous voulez, de crédibilité de l'institution ecclésiale, que n'importe qui, crois, peut observer. Je peux vous dire, en tant que prêtre, j'ai beaucoup de gens qui reviennent au bout de 30 ans, de 20 ans, et complètement désorientés et heureux, finalement, de se dire, tout ça n'était peut-être qu'un mauvais rêve. Et je crois que c'est ce que nous souhaitons tous, enfin, que la ruine de l'Église que nous avons connue ces 30 dernières années ne soit qu'un mauvais rêve.
Je voulais juste faire une
Étienne Grandfer voulait faire une
pour commenter un peu ce que disait Philippe Maxence. Je suis pas sûr que ça passe au-dessus de la tête de tous les fidèles, même au niveau que vous évoquez. En tout cas, moi je suis très perturbé à titre personnel d'être obligé, dans un climat totalement hostile à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur, de courir à je sais pas où pour avoir une sainte messe, de me faire regarder comme un demi-paria. Finalement, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais on est un peu sur une logique révolutionnaire. J'ai l'esprit de paroisse, j'ai été élevé comme ça par mes grands-parents et mes parents, et à un moment, c'était plus supportable. Je vous donne un exemple dans ma commune du Morbihan, à Elvin, où j'ai toujours été à la messe de Noël. Cette année, c'est, je crains, la dernière fois, parce que l'effort était au-delà du possible. Le jeune prêtre qui était là, vraiment, mille pardons, Seigneur Jésus, mais à mon avis, devrait aller dans une petite maison. Et je vous promets qu'il y a des gens qui sont sortis de l'église. Donc on est obligé de faire quoi? D'aller à Vannes, où Mgr Gourvès essaie de faire ce qu'il peut pour qu'il y ait pour accorder l'indulte. Mais en fait, il est obligé de dire, sous la pression des associations gauchisto-catholiques, que finalement, on va dire les liturgies tridentines, mais face au peuple, pour pas choquer les gauchistes qui, de toute façon, ne viennent pas. Enfin, je veux dire, on est je suis pas sûr que ça dépasse les fidèles. Moi, simple fidèle, sincèrement, je préférerais aller dans ma paroisse naturelle avec des choses beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus qu'on explique aussi à ceux qui sont aujourd'hui hostiles à la messe tridentine que, peut-être qu'on en a fait un peu trop et que je ne sois pas obligé, je vous dis, moi, simple fidèle, d'aller à 4 km, me déplacer dans mon Morbihan natal, d'être obligé de faire 70 km pour se dire, c'est pas normal. Voilà.
Si je peux préciser,
Philippe Maxence,
ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble ne pas être la préoccupation première, pour employer donc des termes un peu plus justes, des fidèles, c'est la question du rite. Alors on peut le regretter, mais ce que me semble une majorité de fidèles recherche, c'est une messe qui soit célébrée dignement. Je fais moi-même 60 km tous les dimanches pour aller à la messe, donc je connais le problème. Mais le fait est que en parlant avec un certain nombre de catholiques qui ne sont pas traditionnels ni traditionalistes et qui soit sont j'allais dire proches des communautés charismatiques, soit sont des tout simplement des paroissiens de base qui jonglent aussi avec leur paroisse, mais ce qui quand vous leur parlez de la messe de Saint-Pie V, pour eux c'est un autre univers qu'ils ne connaissent pas et qui leur fait très peur. Mais c'est un fait.
C'est normal.
C'est un univers qu'ils ne connaissent pas et qui leur fait peur.
On ne peut apprécier que ce qu'on connaît.
Premièrement. Deuxièmement, ce qu'ils cherchent, c'est un confort. Un confort, mais là, au bon sens du terme. C'est-à-dire que, effectivement, pouvoir aller à la messe le dimanche, entendre monsieur le curé appeler à voter pour monsieur Chirac, ou ensuite, faire la pub
pour la CCFD,
etc.
Je l'ai entendu, moi.
Alors, ils sentent qu'il y a un problème liturgique, mais ils vont pas jusqu'à rentrer dans les...
Qu'ils l'identifient pas, c'est normal.
Ça, ils ne l'identifient pas. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le deuxième élément, c'est, quand vous me dites, monsieur l'abbé, que vous avez vers vous des personnes qui viennent et qui reviennent à la messe traditionnelle, vous employez tout à fait le bon terme, qui reviennent à la messe traditionnelle. Le problème, c'est qu'il y a toute une génération, dont je fais partie, qui, née après le Concile, n'a pas connu la messe traditionnelle.
Oui. Comme norme,
comme norme habituelle de la liturgie.
Si ça peut vous rassurer, moi non plus.
Nous en avons déjà parlé.
À 18 ans.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour ces jeunes, j'allais dire, d'une certaine manière, en jouant un peu sur le mot, la messe traditionnelle, c'est la messe de Paul VI. Là, j'emploie le mot traditionnel au sens d'habituel. Donc pour eux, il y a une découverte à faire, et ce n'est pas une chose très facile à entreprendre, et d'une part, et deuxièmement, pas toujours, ça ne se fait pas au niveau des considérations théologiques que vous avez pu aborder tout à l'heure. Finalement, on va, pour ceux qui franchissent le premier pas vers la messe traditionnelle, on y va par curiosité. Et ensuite, on est pris par quoi? On est pris par un certain nombre de choses qui attirent. Par exemple, le silence pendant le canon. Et c'est ensuite qu'on franchit peut-être les étapes d'une meilleure pénétration théologique de cette messe. Mais pour que ce pas soit fait, je pense que ça reste le pas d'une minorité un peu curieuse et un peu libre d'esprit, ou alors qui a eu un contact providentiel peut-être avec des prêtres.
Je raconte toujours, enfin je racontais déjà cette anecdote que m'avait narré Mgr Vac, qui dirige l'Institut Christ-Roi, souverain prêtre à Florence, revenant d'un voyage aux États-Unis il y a 2 ans, je pense. Il avait établi une maison dans je ne sais plus quel état américain, dans un diocèse américain plutôt, qui était dirigé par un jeune évêque, qui devait avoir à peine 40 ans. Et donc on fait une très belle messe tridentine, enfin, etc., comme on les fait, c'est très très bien les faire là-bas, à l'Institut du Christ-Roi, évidemment. Et l'évêque était là, il était au trône, et très surpris de tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, de tout ce qu'il sentait. Et à la fin après la cérémonie, il va voir Mgr Vac et lui dit, mais dites donc, elle est formidable cette messe moderne. Parce que, évidemment, pour lui, tout était absolument renversé. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour des jeunes qui n'ont pas connu la messe traditionnelle, la tradition liturgique, c'est la messe de Paul VI. Et pour lui, c'était la messe moderne. La messe moderne, c'était la messe tridentine. Vous voyez, on est dans... Alors, ayant pris le micro, je... Ah bon, pardon.
Je vous coupe. Tout ça pour dire que nous sommes dans une discussion qui est évidemment très intéressante. Mais encore une fois, je reste persuadé que... il y a une prise de conscience au niveau des autorités, de certaines autorités romaines, qu'il y a des discussions et des interrogations qui se posent à ce niveau-là. On en est encore très très loin, me semble-t-il, et j'ai avec le contact avec mes lecteurs me le montre grâce à l'enquête que nous menons. Nous sommes encore très très loin d'une prise de conscience parmi le peuple chrétien de l'importance de ces questions et que ces questions se posent au niveau théologique. Et là, il y a une prise en compte de cet élément qui me semble pas toujours fait. Voilà.
D'accord. Vous vouliez dire, hein, parce qu'on a reçu plein. Alors, maintenant, oui, Pèlerinage de Tradition. Alors, j'en remercie Cécilia Dem. Alors, allez-y, dites l'adresse.
Cécilia Dem, entre autres, et il y en a un certain nombre. Enfin, Pèlerinage de Tradition.
Cécilia, elle est gentille, elle m'envoie.
23 rue Poliveau, 75-015 Paris. Pardon, 05 Paris. Le téléphone 01 55 43 15 60.
C'est très bien. Vous savez, c'est mnémotechnique, Pèlerinage de Tradition, janvier, 23 rue Poliveau, 75 05 Paris. Et non, si, voilà, grand air a percuté, mais alors vous autres n'avez pas. Non, non. Dire, vous n'avez pas regardé la traversée de Paris.
Marcel Aimé.
Alors, le téléphone, vous avez
je
le téléphone,
dit,
je l'ai aussi.
Dit.
On peut le redire une fois alors.
Bah, dites-le.
Merci,
on va varier.
On va varier, voilà. Tout est bonheur. 01 55 43 15 60. 01 55 43 15 60. Voilà, alors quand même, on a servi la soupe à tout le monde ce soir. Hein. Bon.
Je vous lis les messages suivants, non ?
Rapidement, parce qu'on a, on a encore une des séquences.
Ne croyez-vous pas que Jésus, aujourd'hui, à l'égard de tous ces problèmes de liturgie, prendrait la même position qu'il avait il y a 2000 ans, lorsqu'il parlait des grands prêtres et du temple.
Moi, je crois en Jésus, mais je ne sais pas ce que Jésus aurait pensé. Voilà.
Il existe différentes communautés juives qui pratiquent différents rites. Cela n'empêche pas les juifs d'exister. Quand j'entends vos querelles, je vous dis, acceptez-vous plutôt les uns les autres. Vous avez tort de vous chamailler.
Oui, mais nous acceptons très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de ce point de vue-là.
On discute.
Plusieurs autour d'une table.
Voilà, on discute d'ailleurs. On discute.
Il faut quand même signaler aux auditeurs que les flingues sont juste
cachés,
dessous,
sont cachés sous la soute.
Pas de plaisanterie. Une auditrice vous demande. La messe de Saint-Pie-V n'a jamais été interdite par le Vatican, mais alors pourquoi, dans ce cas, faut-il une autorisation pour la célébrer ?
Ah, parce qu'il y a une autre norme liturgique, alors c'est toujours ces dérogatoires.
Cette dame est très perspicace, parce qu'effectivement, tout le problème est là. C'est qu'il n'y a jamais eu d'interdiction, mais que maintenant, il faut demander une permission.
Mais parce qu'il y a eu promulgation d'un nouveau missel. Alors évidemment, il faut des clauses dérogatoires par rapport à un missel précédent. Bon, c'est des choses dont c'est quand même logique.
Daniel, je ne veux pas lancer les auditeurs dans une discussion, mais non, ça suffit pas. Saint-Pie V, quand il a promulgué son missel, il a accepté que tous les rites antérieurs continuent. Et je crois que tous les gens qui nous disent vous vous battez à propos de rites, etc., la question est à poser aux réformateurs qui ont imposé une réforme sortie, armée casquée, de la tête d'experts, d'intellectuels en chambre, qui n'avaient d'ailleurs aucune expérience de la vie paroissiale concrète,
c'est vrai.
Et qui ont imposé ce rite en produisant une casse énorme.
Oui. Le cardinal Ratzinger parle d'une liturgie fabriquée. Et je crois qu'il a raison. Enfin, je pense que son jugement est juste. Encore un message.
Les chrétiens conciliaires ne sont pas concernés par la bataille liturgique, c'est vrai, mais c'est parce que
je ne connais pas les chrétiens conciliaires
personnellement. Parce qu'ils fichent le camp des églises où on leur fait perdre la foi.
Non, il n'y a pas. Ce sont des expressions, justement, ce que je voudrais. On discute entre nous et je crois que c'est très bien avec nos nuances et parfois nos oppositions, mais c'est très bien. C'est la sainte liberté des enfants de Dieu. Mais il n'y a pas de chrétiens conciliaires ou de chrétiens préconciliaires ou post-conciliaires. Nous sommes tous des catholiques romains et basta. Voilà.
Il y a tellement de conciles, alors bon.
Une auditrice vous fait une proposition. Que penseriez-vous de revenir à l'élection des évêques par les fidèles ? Ça permettrait peut-être d'éliminer les évêques cochons comme celui de Saint-Denis.
Bah déjà qu'en matière civile, la démocratie et le suffrage universel ne donnent pas d'excellents résultats. Je pense qu'en matière ecclésiastique, ce serait pire. Ça dépend, évidemment, c'est normal. Dans un monastère, on élit, hein, les moines élisent la prieure pour les femmes, le prieur, etc. Bon, c'est normal, parce que dans des petites unités liées par quelque chose de profond, ou dans des petites municipalités, ou dans des professions, dans des métiers, c'est tout à fait normal qu'on élise son président. Mais là, c'est quand même un peu plus compliqué. Hein.
Il est corporatiste, en plus.
Hein ? Alors, ah oui, moi, je suis très pour les corporations. Oui.
Le monastère de Notre-Dame de la Miséricorde, dans l'Orne, dont dépendait Mgr Miguet, évêque ordonné par l'évêque vietnamien, est passé le 1er mai dernier sous la juridiction du patriarcat syriaque orthodoxe d'Antioche, ainsi que tout l'Orient.
D'accord. Bon. Non, mais là, on peut rien dire, parce que ça, c'est des choses qui nous dépassent. C'est très, très compliqué. Alors, on ne sait plus, les filiations sont... c'est très, très compliqué, tout ça.
Dans mon quartier, quand je vais à l'église, j'ai la nette impression d'être dans un temple protestant.
Oui.
Et puis, un auditeur peu intéressé par les débats religieux vous demande, Qu'avez-vous à dire à propos de ces évêques qui stigmatisent le Front National au prétexte que son programme ne serait pas conforme au dogme?
Bah, qui s'occupent de leurs ouailles. C'est tout. Enfin, encore une fois, chacun son métier. Je veux dire, chacun son métier, chacun sa responsabilité. Les évêques, on les attend un peu plus pugnaces sur d'autres sujets que d'hurler avec les loups. Encore une fois, on peut avoir le point de vue qu'on veut sur Monsieur Jean-Marie Le Pen, sur les idées qu'il défend, les principes politiques du Front National, mais hurler avec les loups m'a toujours semblé une chose pas très belle, enfin pas très honorable.
Ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font, puisqu'ils sont dans un régime qui décide de lui-même de nouvelles normes morales. Donc, dans un régime comme celui-là, dans la République, il ne peut pas y avoir cohabiter deux autorités. Une autorité, le pouvoir politique, temporel, et le pouvoir spirituel, qui, dans un régime monarchique, excusez-moi d'en faire encore la pub...
Mais pourquoi vous excusez-vous, on est là pour ça, hein.
...sont comme deux rails parallèles qui vont dans la même direction, mais sans jamais se croiser. Or, dans un système comme le nôtre, les rails se croisent, puisque le pouvoir politique décide de se faire Dieu lui-même, et donc de réinstaurer, de constituer, système constitutionnel, de nouvelles valeurs, etc. On a vu ça avec des lois... aberrante, comme l'avortement, etc. Donc, dans un système comme celui-là, la seule place qui est laissée à l'Église, c'est d'être une sorte de chambre d'écho, de nef vide qui résonne, une chambre d'écho du pouvoir politique. Alors, quand je dis ça, je veux surtout pas faire peur à qui que ce soit autour de cette table. Je suis pas en train de faire un procès ad hominem à qui que ce soit. Je suppose qu'en République, la situation est extrêmement difficile pour un évêque, puisqu'il ne sait jamais sur quel pied danser. S'il résiste, c'est la persécution, puisqu'il est plus que jamais un signe de contradiction pour un régime politique comme le nôtre. Et s'il ne résiste, alors s'il résiste et que c'est la persécution, ça nuit énormément à l'Église, aux ouailles, etc. Enfin bon, même si on sait que les martyrs sont des semences de chrétiens, c'est quand même pas... un évêque peut pas, de bon cœur, comme ça, entraîner ses ouailles. Bon, je mets même à part... ce qu'on pourrait estimer une sorte de pénétration idéologique dans l'Église. Bon, je mets même ça à part. Je dis que dans un système comme le nôtre, on ne peut pas être surpris de voir l'épiscopat se faire la chambre d'écho du pouvoir en place. Il ne peut pas faire autrement.
Philippe Maxence. Je pense qu'il faudrait plutôt parler... j'adhérerais assez à l'analyse qui vient d'être faite, avec cette petite nuance qu'il s'agit plutôt d'hommes qui sont effectivement des évêques qui ont pris la parole, puisqu'au total, d'après les décomptes que nous avons faits, seulement 20% des évêques ont pris une position nette. Le reste s'est tu. Bon, ce qui peut être interprété de diverses manières, à la fois sur leur conviction, sur leur courage, mais ça c'est une autre question. Mais je pense que ce n'est pas l'Église en tant que telle qui, là, encore une fois, est prise au piège d'un système. J'aurais plutôt tendance à dire que certains hommes qui sont évêques se sont laissés prendre au piège d'un système.
Si je peux apporter un petit correctif à ce chiffre apparemment séduisant de 20% d'évêques, c'est vrai que peut-être il n'y a que 20% d'évêques qui aient pris position publiquement, mais il faut voir dans combien de paroisses on distribuait des tracts à la sortie de la messe, etc. Et je crois que là, on peut dire que c'est à peu près partout en France. C'est que c'est pas dans 20% des diocèses, dans 80 ou 90%.
Il n'est pas le don d'ubiquité, j'étais pas dans toutes les paroisses de France.
Pourquoi? Parce que je crois que l'analyse qu'on a entendue tout de suite est extrêmement fine et satisfaisante. C'est vrai que l'autorité spirituelle de l'Église ne peut plus s'affirmer devant l'autorité démocratique. Aujourd'hui, on a eu 80% de gens. Bon, ce n'est pas un plébiscite, c'est, comme dit l'autre, la réaffirmation du pacte républicain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui n'adhèrent pas au pacte républicain n'existent pas. Doivent être chassés de la cité, comme dit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Donc, si vous voulez, il est évident qu'un évêque ne peut pas prendre le risque d'affirmer son autorité spirituelle à côté de cette autorité écrasante et unanime des citoyens.
C'est parce que l'autorité politique est devenue une sorte d'autorité pseudo ou crypto spirituelle, morale. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que sous l'Ancien Régime, puisqu'il faut parler de la monarchie, quelqu'un comme Bossuet, par exemple, apostrophait le roi Louis XIV, dont on connaît le portrait qu'on en fait, le roi absolu, etc. Bossuet apostrophait le roi Louis XIV. C'est inimaginable aujourd'hui. Mais c'est pas seulement une question de courage ou de lâcheté, c'est pas du tout ça que je mets en cause. Je veux pas dire que tel et tel évêque a été courageux ou lâche. Il est dans un système qui contredit essentiellement ce que lui porte. Il est, autrement dit, plus que jamais un signe de contradiction. Donc, dans cette cité-là, qui, constitutionnellement parlant, est l'antithèse de ce que peut représenter l'Église, là, je suis pas en train de me mettre à la place des évêques, parce que c'est extrêmement difficile pour eux. C'est-à-dire que, encore une fois, s'ils résistent, c'est la persécution. Et alors, surtout de nos jours, plus ça ira, plus ça viendra. Bon. Et sinon, s'ils ne résistent pas, c'est la collaboration. On est bien obligé d'appeler les choses par leur nom. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Et encore une fois, je ne fais le procès à personne, parce que je suppose qu'il est bien difficile pour le pasteur d'un troupeau de conduire ce troupeau, veille que vaille. Bon, cela dit, je joue aussi un petit peu au naïf en affectant d'oublier qu'il y a quand même eu une pénétration idéologique au sein de l'Église même, puisque l'Église a d'ailleurs dit qu'elle approuvait, enfin qu'elle favorisait ce régime-là aux dépens de tous les autres. Et alors à cet égard, on ne peut pas simultanément, comme elle le fait par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique, dire que parler du droit divin, même si le terme n'est pas cité, mais dire que lorsque l'autorité politique déchoit, cette autorité cesse d'elle-même, par exemple, ça c'est typiquement une idée d'un droit naturel sur lequel l'autorité politique ne devrait pas avoir de prise, on ne peut pas simultanément dire ça, qui est extrêmement traditionnel dans l'enseignement de l'Église, et dire, oui, mais enfin, le système qui permet précisément cela, c'est le système que nous préférons ou que nous encourageons, c'est-à-dire que ces normes supérieures doivent venir du bas. Alors on ne peut pas défendre la transcendance d'un côté et en même temps la nier de l'autre. Et c'est toute la difficulté, toute l'ambiguïté qui existe, alors là qui effectivement qui a commencé par le Concile, moi je me permets simplement d'en parler comme philosophe politique, à partir du Concile et donc du Met Spes, il y a effectivement là des formulations qui installent cette ambiguïté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce régime est encouragé et en même temps le catéchisme reste traditionnel en disant attention, quand l'autorité perd sa légitimité pour des raisons morales supérieures, elle cesse d'elle-même. Mais en démocratie, l'autorité ne cesse jamais d'être elle-même. Elle ne peut jamais cesser d'elle-même, puisque c'est une sorte
elle
s'auto-alimente. On ne peut pas dire, on ne peut pas jeter l'interdit sur une démocratie.
Elle est à elle-même son propre principe.
Voilà,
et elle ne reconnaît aucune loi et aucun principe.
Voilà,
c'est son propre moteur, en fait. Mmh. Alors, réflexion d'auditeur.
Une auditrice, oui, vous dit, à mon avis, les évêques devraient dire de voter pour des gens qui respectent le décalogue, pour le reste, ce qu'ils disent actuellement, c'est abominable.
Voilà. Mais là encore, c'est difficile. Parce que de dire, qu'est-ce que ça veut dire respecter le décalogue? Si c'est se mêler de la vie privée de tel ou tel candidat, ça c'est inacceptable.
En
revanche, oui, je comprends ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire un homme politique qui se fonde sur des valeurs, effectivement, respectant le décalogue. Mais bon, elle rentre en résistance, donc ça devient difficile.
Elle entre en résistance, mais je crois que, le spectacle auquel on assiste depuis quelques jours nous invite à considérer que, effectivement, lorsque la démocratie s'affirme elle-même comme ce principe absolu qui doit juger du bien et du mal, qui est du coup d'ailleurs au-delà du bien et du mal, puisque l'escroc devient le saint, hein, celui dont on dit c'est un escroc, maintenant c'est le saint de la République, on lui a accordé la solution entre temps, sans doute.
Super menteur devient super sauveur.
Ça a duré une semaine, hein, parce que là, c'est
fini.
Reparti,
hein.
Oui, mais une semaine une semaine décisive, ouais, vous voulez, pour orienter la vie politique et l'avenir, et puis le système fonctionnera de la même façon avec d'autres personnes. C'est le système qui fonctionne, ce ne sont pas les personnes. Et effectivement, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que la démocratie, ou plutôt je préférerais dire le démocratisme, ce n'est pas le gouvernement par le peuple, c'est le seul gouvernement qui considère que ces décisions sont des principes absolus, parce qu'elle représente l'avis de l'ensemble de la population. Et on le dit a priori, indépendamment même d'ailleurs des votes. Quand la décision n'est pas trop sûre, on ne fait pas de vote. Et le système qui se présente comme représentatif a un pouvoir absolu. Donc face à ce pouvoir absolu, on ne sait pas où il va aller ce pouvoir absolu, ce qu'il va décider demain. Mais il est clair qu'à un moment ou à un autre, les chrétiens devront dire « Nous, on reconnaît une autre autorité. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », comme disaient les premiers chrétiens.
Mais la difficulté, c'est que s'il ne s'agissait que de dire les hommes décident entre eux, etc. Tout régime politique se fonde sur des exclusions, sur des choses exclusives, sur des principes et donc sur des absolus. Or, le régime politique sur lequel nous fondons, ce qui le construit, c'est justement la négation de ces valeurs transcendantes en disant « je suis un homme ». L'humanité est arrivée à l'âge adulte, ça c'est l'héritage des Lumières. Et par conséquent, je dois m'émanciper de toute autorité sur laquelle je n'aurais pas de prise, de tout lien supérieur, ce qu'on appelle des obligations, obligere, je ne vais pas apprendre de la bête noire, et donc de toute valeur qui me dépasserait. Ce régime repose là-dessus. C'est la raison pour laquelle ce régime dit pas de liberté pour ceux qui, fût-il une majorité occasionnelle, voudraient transgresser ce principe-là. Pas de liberté pour les ennemis de cette liberté. Liberté avec un petit L qui consiste à s'émanciper de toute autorité supérieure à soi-même, ni Dieu ni maître. Donc dans un régime comme celui-là, s'installe une sorte de valeur suprême, qui évidemment est issue de l'homme, mais si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mon libre choix. Lorsque les gens disent « Ah ben alors c'est pas démocratique, puisque quand on veut s'exprimer dans un sens qui plaît pas, alors on conteste notre sens, on nous diabolise, etc. » Mais si c'est démocratique, puisque le système lui-même repose...
La démocratie a toujours fonctionné sur la diabolisation. Finalement, ceux qu'on appelle aujourd'hui des fascistes, un peu bêtement, parce que finalement le fascisme est mort depuis longtemps, ceux qu'on appelle aujourd'hui des fascistes, pendant la Révolution française, on les appelait les aristocrates ou les...
Oui, absolument. Ouais.
C'est le même principe.
Et on les brûlait en effigie, comme on a vu d'ailleurs, place de la République.
Ouais, enfin, on ne se contentait pas de les brûler en effigie. Hein.
Imaginons qu'on ait eu la télévision à partir de 1789, je pense qu'on aurait eu à peu près le spectacle que nous avons eu si on a regardé la télévision pendant les 15 jours qui se sont espacés entre les deux tours.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'il y avait des scènes absolument...
Avec des appels aux meurtres. Et c'est
appel
là où, effectivement,
que
des évêques ne puissent rien dire contre ces appels aux meurtres et qu'aucune personnalité politique, quelle qu'elle soit, n'ait rien dit contre ces appels aux meurtres, Le Pen à la Seine, etc.
Oui,
qu'on soit ou non... partisan de Jean-Marie Le Pen, mais ça dénote une décadence morale extrême et ça montre simplement que la démocratie s'affirme comme le régime qui, au-delà du bien et du mal, décide de façon absolue de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas.
Oui. Et ce qui est juste, c'est ce qui nous émancipe de toute valeur supérieure. Il faut bien garder ça en mémoire. C'est pas simplement j'ai le libre choix entre le bien et le mal, ou je décide de ce qui est bien et ce qui est... C'est je décide de ce qui est bien et ce qui est mal. Mais je le décide en fonction d'un seul critère qui est celui de m'émanciper. Donc en réalité, le choix est déjà fait en démocratie.
Mmh. Un
auditeur nous dit, suite à l'assassinat de Pierre Fortuyn, j'ai entendu, concernant Jean-Marie Le Pen, sur une radio, il a intérêt à bien se couvrir.
Fortuyn.
C'était mardi 7 mai, un peu après 7 heures, sur Radio Notre-Dame.
Il reste à savoir si nous rentrons dans une période de crispation politique telle que des assassinats politiques pourraient avoir lieu.
Encore une question.
Plusieurs auditeurs nous demandent des nouvelles de Serge de Beketch.
Il est en vacances, il va très bien. C'est moi qui vais très mal puisque je n'y suis pas. Donc il revient la semaine prochaine. Vous entendrez sa voix méliflue en début d'émission. Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Je vais donc rappeler qu'on a eu le bonheur de recevoir ce soir Philippe Maxence, rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, qui est un un bimensuel, donc il paraît tous les 15 jours, toutes les deux semaines, si vous préférez, c'est la même chose, plus chic. Voilà, donc l'adresse est 10 rue Rosenwald, 75 015 Paris, je l'appelle, hein, R-O-S-E-N-W-A-L-D. Vous proposez aux gens de leur envoyer quelques spécimens s'ils demandent. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils téléphonent ou plutôt qu'ils... Voilà, ils écrivent
ou ils téléphonent dans la mesure où je vais retrouver le numéro de téléphone.
Ah oui, là j'avoue que je ne l'ai pas noté. Ça c'est de ma faute, mais je ne l'ai pas noté ici.
Problème, au 01 53 68 99 77.
Alors vous allez redites-le s'il vous plaît.
01 53 68 99 77.
Voilà, donc 10 2 x 5 rue Rosenwald dans le 15e arrondissement. Nous avions également le plaisir d'avoir l'abbé Guillaume de Ptenwarn, dont le dernier numéro, la nouvelle revue Certitude, est paru il y a très peu de temps, hein, j'ai reçu ça une petite dizaine de jours.
Oui.
S'appelle sur le titre, enfin le dossier, c'est Les intégrismes sont-ils différents? Une question.
Et à cet égard, je voudrais remercier les très nombreux auditeurs qui m'ont fait des demandes de spécimens, parce que je suis passé, Daniel, c'était pas avec vous, mais la semaine dernière,
des infidélités.
Une émission, donc dire qu'effectivement ils peuvent, ceux qui ne l'ont pas fait peuvent,
voilà, peuvent le faire. Nouvelle revue Certitude, 23 rue des Bernardins, Paris 5e, téléphone 01 45 78 00 53, 01 45 78 00 53, n'appelez que vendredi, parce que là il n'y aura personne demain. Et puis nous avons également reçu monsieur l'abbé Barthes, qui est venu nous parler de la revue Catholica, qui est un trimestriel, donc paraît tous les 3 mois ou 4 fois par an, si l'on préfère. Le numéro 75 est paru sous le titre du dossier Pour un réveil de la pensée. Revue Catholica, boîte postale 246, 91, 162, Longjumeau, Sénex. Nous nous retrouvons tout de suite.
De passer la soirée à notre compagnie. La suite du programme à 21h tout à l'heure avec les soirées musicales. Première partie série de jazz avec Sidney Bechet et ensuite à 22h une musique de film en avant-première, la bande originale du film Sur le bout des doigts. Et puis tout de suite, deuxième partie du libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 mai 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Voilà, nous revoilà donc pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge Vacatus de Bekel. Nous sommes le 8 mai, mercredi 8 mai. Nous sommes en direct dans le studio, cher Victoria.
8.
Qui va nous lire quelques petits, deux petits, trois petits,
les petits messages,
nous allons les manquer.
La guerre du 8 mai a commencé.
Et ils nous manqueront.
Elle n'est pas finie. Le mémorial du Front d'Orient annonce qu'une conférence sur Hélène d'Anjou, fille de France et reine de Serbie, fondatrice du monastère Gradac, sera tenue le samedi 11 mai prochain au cours d'un déjeuner dans une salle au Grenadier, restaurant de la salle de la gare d'Austerlitz. Le déjeuner-conférence, fixé à 12h30, sera accompagné d'un petit film « Allée des Lilas ». Conférencier, Mère Marie, supérieure de Gradac, Milan Ratkovic, auteur du livre « Hélène d'Anjou », Âge d'homme, alors édition L'âge d'homme, Gérard Schorp, expert en art religieux médiéval, prix du déjeuner-conférence, 31 euros par personne.
Combien de neuros? J'ai pas compris.
C'est des neuros, là. Le lundi 13 mai et le mercredi 22 mai prochain, à 20h30, à la salle Saint-Joseph, 9 rue Émile Duclos, Paris 15e, métro Volontaire au Pasteur, cours d'initiation liturgique de M. l'abbé Coex. Leçon sur la messe romaine, histoire, prière et rite, deux sessions de deux soirées en complément des deux cours du mois de mars. Une libre participation aux frais sera demandée. Pour tout renseignement, s'adresser à Una Voce, 3 rue Lamondé, 75 017 Paris, téléphone 01 42 93 40 18. Mardi 14 mai, de 19h30 à 21h, dans le cadre des conférences du Roseau d'Or, Madame Millet-Gérard parlera de Bernanos, le scandale du mal, au patronage Notre-Dame de la Salette, salle Saint-Jean, 29 bis rue de Danzig, Paris 15e, métro Convention. Pour tout renseignement, téléphonez à Emmanuel 01 47 72 76 01.
Merci, chère Victoria, pour ces messages prononcés de votre voix mellifluée.
Arrêtez.
Bon, alors, pendant que nos invités de la deuxième partie sont en train de s'installer dans notre studio, donc je rappelle la présence de Marie-Adeline qui va nous avoir la gentillesse de nous faire quelques commentaires sur l'actualité politique immédiate, lui qui est président de l'Alliance Royale, écrivain, journaliste, chroniqueur au l'hebdomadaire légitimiste, Étienne Grandterre également, qui lui prêtera la répartie à l'occasion de cet entretien. Et puis nous avons également notre ami Guy Luideux qui est présent pour venir nous présenter, ainsi que le dessinateur, Gilles Glossowski.
Philippe Glofowski.
Ah, Philippe
Glogowski.
Glogowski. Alors, articulé. Très bien. C'est très compliqué parce qu'en plus, bon, il habite au loin, donc ça
Glogowski.
Également, voilà. nous avons la présence sur place de nos amis Jean-Baptiste Chaumaille et Bertrand
Duboulet, c'est ça, Bertrand Duboulet, donc, qui sont des animateurs du Chœur Montjoie Saint-Nu, bien connus de nos auditeurs, qui viennent nous parler du nouveau CD, un double CD sur le rosaire de Notre-Dame, qui viennent de faire paraître, qui est très beau. Et puis également est dans le studio, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde. Sébastien de Querrero, qui lui est responsable de la communication à l'Action française, ou de l'Action française, qui va nous parler du cortège traditionnel pour la Sainte-Jeanne d'Arc du 12 mai prochain. C'est bien le 12 mai. Alors pour l'instant, il est très mal installé, mais on va y arriver. Voilà, on va arriver. Alors, Yves-Marie Adeline, donc nous avons eu une élection présidentielle. Deux tours, plus un troisième, dans la rue ou dans les urnes, ça va dépendre de la façon dont les choses vont se passer. Et puis nous avons un nouveau gouvernement. Alors vous pourriez nous faire quelques commentaires là-dessus, non, pas spécialement?
Bon, c'est difficile, il y a beaucoup.
Vous qui êtes philosophe, vous êtes content qu'il y a, Luc Ferry, qui est donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Ça, c'est vraiment la question.
Ouais. Ça fait deux fois, non mais attendez, ça fait deux fois qu'on a des Ferry ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu Jules, et maintenant il y a Luc.
Oui, mais celui-là, il est philosophe.
Il est philosophe?
Oui.
Et l'autre n'était pas philosophe des Lumières?
Et son nom est un anagramme de Lucifer.
Ah, Luc Ferry.
Oh là,
ah, monsieur Grantaire, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre collègue? Parce que vous êtes philosophe.
Non.
Vous n'êtes pas philosophe.
Moi je suis philosophe. On ne va pas dire les choses comme ça. Je suis enchanté que Luc Ferry ait enfin trouvé l'emploi qui lui convient. Parce que pendant des années et des années, les universitaires que nous sommes tous, soit parce que moi je n'y enseigne plus, mais enfin, étaient attirés de savoir que ce monsieur-là était présenté comme un philosophe. S'il nous est présenté comme un ministre de l'Éducation nationale, ça pose aucun problème. D'ailleurs, depuis des années, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là, qui a certainement des choses... alors là, pour le coup, je vais être moins vache, qui a certainement des choses à dire, à proposer. Bon, il a travaillé sous différents gouvernements, c'est un proche de Bérou. Ça résonne dans mon casque, mais peut-être
oui,
pas...
Oui, non, mais c'est pas normal. C'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais...
Cela dit, je trouve qu'il est mieux à sa place ici, parce que depuis trop d'années, nos compatriotes sont grugés avec des espèces de philosophes au petit pied. Alors, c'était BHL, ça a été Comte-Sponville, Luc Ferry...
On l'appelle ce con de Sponville, c'est ça.
Bon, donc c'est très bien comme ça. Il est certainement plus à sa place ici qu'à essayer de faire croire à tout le monde qu'il écrit des livres de philosophie. Donc pour ce qui concerne Luc Ferry, voilà, je vous ai répondu. Je suis en revanche un petit peu plus optimiste sur son ministre de tutelle, Darcos, qui est quelqu'un qui a de grandes ambitions et en tout cas de très bonnes idées sur la question des programmes scolaires. Pour une fois, on a quelqu'un qui a des idées claires là-dessus, qui se désole du désordre qui date de déjà plusieurs décennies dans la réforme. Voilà. Alors, quelle sera sa marge de manœuvre par rapport à son ministre de tutelle? C'est une question importante qu'il convient de poser. Voilà.
Alors, sur le bilan de ces deux tours de présidentielle, il y a quand même des choses, et il y a quand même des choses épatantes, en fin de compte, quand on y réfléchit bien. C'était des petites anecdotes comme ça qui m'ont amusé. Vous en avez parlé tout à l'heure en privé, mais je vais en faire profiter nos amis auditeurs. C'est quand même, comme disait le cher Fernand Reynaud, il y a comme un défaut. Vous savez, il y a comme un défaut. Le problème du costume, pas très très bien tout coupé, faut dire. Et c'est vrai, il y a comme un défaut. C'est-à-dire le premier tour de l'élection présidentielle, c'est vraiment le président sortant a le plus mauvais score au premier tour de tous les présidents de la Ve République. Bon. Et au deuxième tour, miracle, il a le plus gros score de tous les présidents de la République, de la Ve République. Plus gros score, on n'a jamais vu ça, 82%, vous imaginez?
Ah, c'est même tropical. Maintenant,
non, mais en Afrique, c'est tropical, mais en Afrique, ils n'osent plus, hein. C'est fini, hein. Non, parce que ça marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, ça, premier truc rigolo. Très rigolo aussi, faut voir ce qui s'est passé dès le dimanche soir de ce deuxième tour. Alors, tous les jeunes, enfin, les gens qui votaient pour Chirac le matin, défilaient le soir en disant, Chirac, démission. Il y avait des banderoles et des mecs qui sont l'air de l'ambiance, Chirac, démission. C'est quand même, c'est quand même épatant. Écoutez, pas drôle la République. C'est quand même marrant ce truc, non? C'est incroyable, quoi. Voilà, alors c'était c'était les facéties habituelles. Et puis bon, voilà. Alors,
non,
je vous laisse un peu commenter.
Oui, ce qu'on peut remarquer quand même,
qui, je suppose, n'a échappé à personne, c'est que c'est sans doute la première fois que la candidature, enfin la campagne électorale d'un candidat de droite a été faite par la gauche. Et parce que au moins avant, bon, en 95, il y avait la fracture sociale, il y a eu tout un numéro de claquettes, qui était d'ailleurs rendu possible uniquement par la présence de Balladur au gouvernement, et qui permettait à Chirac de se démarquer de Balladur et d'essayer de jouer sur les deux tableaux. Parce que si Balladur n'avait pas trahi Chirac, je ne sais pas comment Chirac aurait fait sa campagne. Mais là, ce qui est remarquable, quand je parle souvent d'un paysage en ruine de la droite, c'est de constater que ce candidat-là, en définitive, n'avait pas du tout de programme propre, enfin qui le distinguait nettement de la gauche, et c'est la gauche qui a fait sa campagne.
Il n'en a toujours pas d'ailleurs de programme.
Il peut pas en avoir, puisque ça fait trop longtemps maintenant que la gauche s'est installée dans son âge d'or, qu'elle maîtrise non seulement le régime, puisque le régime lui appartient, c'est elle qui l'a fondé en 1789, qu'elle en maîtrise tous les secteurs métapolitiques, qu'elle en maîtrise la culture, les comment dirais-je, elle a des réserves morales.
Les médias,
tout. Donc, on voit là un candidat qui est totalement à otage. Alors, cela dit, pour Chirac lui-même, c'est pas tellement problématique, puisque sa passion, c'est le pouvoir. Bonaparte disait « ma maîtresse, c'est le pouvoir ». Bon, Chirac aussi, c'est quelqu'un qui a toujours visé le pouvoir. Là-dessus, c'est vrai que donner un contenu à cela, c'est difficile. On aura remarqué ça, on aura remarqué un candidat qui a été en fait, dont la campagne a été faite par la gauche. Cela dit, on est quand même dans une situation particulière, puisque l'éparpillement de la gauche a été tel qu'il a permis l'arrivée de Le Pen au deuxième tour, ce qui était quand même pas prévu, ça.
Alors c'est à la fois, parce que ça, je sais que c'est une thèse que vous défendez, qui est juste d'ailleurs, c'est à la fois l'éparpillement de la gauche, mais c'est aussi le désamour d'une partie de la gauche pour Lionel Jospin. Il y a les deux aspects, parce que c'est pas parce qu'il y aurait pu avoir 54 000 candidatures. D'ailleurs, je trouve que c'est très peu. Puisqu'on est tous supposés pour être président de la République. Hein. Donc, pourquoi il y en a que 16, c'est lamentable. Mais c'est aussi parce que une grande partie de la gauche n'a pas été satisfaite du tout de la façon dont...
Oui, mais là, bon, ça se révèle dans l'éparpillement, voilà. Et aussi, c'est vrai, dans de l'abstention. Pourquoi ? Parce que Jospin s'est centré, il a recentré... D'ailleurs, la gauche, depuis très longtemps, a fait ça. Jospin a eu le mérite de le dire explicitement un jour. Il a dit, je ne suis pas un candidat social. Donc les choses devenaient simples parce que la gauche est en train de rompre a rompu depuis longtemps avec ses utopies égalitaires ou héritées plus ou moins du marxisme. Sauf, alors ça laisse évidemment dans une société en crise où il y a tellement de gens qui sont au bord du chemin, ça laisse la possibilité à des groupes extrêmes d'agiter à nouveau les banderoles du communisme. Effectivement, c'est pour ça que Jospin a manqué là de ces réservoirs-là. Mais il n'empêche que c'est cet éclatement qui
au premier tour, il en a manqué, mais le président Chirac n'a pas manqué de réservoir au second tour.
Bon, toujours...
Enfin, au deuxième tour,
voilà, c'est-à-dire que la seule différence, c'est que si Jospin était passé au deuxième tour, il était élu président de la République.
Vraisemblablement.
Donc, évidemment, pour la gauche, il y a une espèce de frustration. De toute manière, c'est l'élection des frustrés. C'est l'élection de toutes les frustrations. De quels que soient les partis en présence, c'est l'élection des frustrations. Et compte tenu des difficultés... alors déjà, ça installe un climat qui n'est pas très agréable. Cela dit, on n'en est pas encore aux assassinats politiques comme en Hollande ou en Italie. Mais compte tenu des difficultés qui vont se présenter dans l'avenir, et je cite très souvent le problème des retraites. Le problème des retraites, on peut comme ça gérer la crise. À partir de 2005, on verra une génération issue du baby-boom extrêmement nombreuse, comme son nom l'indique, qui, elle, ne s'est pas reproduite, et qui va partir à la retraite. Or, il n'y aura personne pour payer ces retraites-là. Donc, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'être le Premier ministre à partir de 2005, parce qu'il faudra gérer une situation ingérable avec des égoïsmes de part et d'autre, avec une gauche qui tient la rue, une gauche qui tient la fonction publique, qui tient des secteurs entiers de privilégiés du système qui ne voudront pas lâcher un pan de leurs privilèges. Donc, à partir de là, ça deviendra aussi bien pour la gauche que pour la droite ingérable.
raisonnable. À la limite, si vous voulez, et là, c'est pas, je parle pas des principes eux-mêmes, je parle simplement de la conjoncture, que ce soit la droite ou la gauche qui soit au pouvoir, les difficultés seront énormes et peut-être insurmontables. Je ne parle pas des principes eux-mêmes, car évidemment, si vous voulez me faire parler sur ma pensée profonde là-dessus, je vous dirais que, à la limite, enfin pour un royaliste, la question fondamentale n'est pas de savoir si nous sommes dirigés, enfin gouvernés à gauche, par la gauche, dans un système de gauche. Ça, c'est François Hollande qui peut-être prendra ses billes, donc à partir des législatives. Bon, ça dépendra un peu de ce que va faire le gouvernement dans les 100 jours qui viennent. La question n'est pas non plus de savoir si nous serons gouvernés à gauche, par la droite, dans un système de gauche. Ça, c'est la version Chirac. Et en fait, la question de fond n'est pas non plus de savoir si nous serons gouvernés ou si nous avions pu être gouvernés à droite, par la droite, dans un système de gauche. Et ça, ça aurait été la version Le Pen, parce que la question de fond, c'est que nous sommes dans un système de gauche. C'est pas un système neutre, laissant sa chance égale à la droite et à la gauche, c'est un système de gauche. Donc, la question fondamentale, c'est celle-là que nous posons. Et alors, c'est celle que veut poser l'Alliance Royale, précisément. C'est pour ça que l'Alliance Royale essaye de faire émerger dans le débat politique français ordinaire la question des institutions, la question institutionnelle, et spécifiquement la royauté.
Alors je rappelle que nous sommes sur les Courtoisies, vous écoutez Yves-Marie Adeline, Étienne Grandterre, je dirais un petit mot et ensuite je passe la parole aux auditeurs.
Pour illustrer les propos d'Yves-Marie Adeline, depuis 5 ans, je crois qu'il y a à peu près 140 directions générales dans l'administration française. Elles ont été renouvelées à plus des 4/5, je crois que c'est aux alentours d'une centaine. Dans toutes les nominations qui ont été faites en 5 ans, et qui donc exige la signature du président de la République, puisque constitutionnellement, ces gens-là aiment bien écrire les choses, hein, quand même. J'ai le droit de... Il doit apposer ses signatures. Il ne s'est pas opposé une seule fois aux propositions du Premier ministre, en termes de direction générale des services de la haute fonction publique. Et donc, on a une fonction publique qui désormais est, pardonnez-moi du mot, mais nettoyée. Donc la marge de manœuvre pour un mois et demi de l'actuel gouvernement
est étroite.
Ne sera que ce que la gauche voudra bien accorder au gouvernement qui est en place aujourd'hui, qui a une tâche qui peut être stimulante, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'en un mois et demi ils vont pouvoir produire. Bah,
c'est toujours agréable d'emménager dans de nouveaux bureaux tout neufs. Enfin, voilà. Je veux dire aussi, il y a le côté, mais il y a le côté esthète quand même. Ouais. Le problème, c'est que moi je trouve qu'ils sont assez piégés, parce que de toutes les manières, ils décident de frapper très fort, ce sera très symbolique, pour s'assurer quand même une crédibilité pour les législatives, auquel cas ils ont peut-être une chance d'avoir des élus. Mais s'ils frappent trop fort, dans 15 jours, c'est la grève générale, c'est les manifestations. Voilà. Dans la rue et...
Oui, c'est vrai.
Leur marge de manœuvre est très, très étroite.
Tout est ouvert. Cela dit, c'est vrai que...
On sait battre la République.
Comment dirais-je, quelqu'un comme Sarkozy, qui est un manœuvrier, a certainement compris que la défaite de Le Pen pourrait démobiliser son électorat à la seule condition que Sarkozy donne, à ce moment-là, des signaux forts en direction de la sécurité des banlieues, etc. Mesure où beaucoup de gens ont été portés par des illusions entre premier et deuxième tour, enfin, je ne vais
pas revenir là-dessus, mais...
J'ai déjà répondu à l'époque entre les deux tours, mais on peut imaginer, à la limite, qu'une partie de cet électorat se dise, bon, bah alors, on n'y arrivera jamais. Puisqu'on avait réussi cet exploit, cela dit, je rappelle dans quelles conditions cet exploit avait été réussi. Hein. C'est d'abord la chute de Jospin, l'éclatement de la gauche. Mais bon, peu importe, on s'aperçoit qu'entre le premier et le deuxième tour, il n'y a aucun effet de levier, il y a 600 000 voix. C'est pas un effet de levier, ça. Et que donc, il y a vraiment... cette diabolisation a abouti à la constitution d'une enclave politique à l'intérieur du système. Rester dans une enclave, on peut jamais faire de la politique de cette manière-là.
Ouais, c'est un peu romantique, cher Yves-Marie Adeline, parce que finalement, tout le monde est le résistant de quelque chose à quelque chose. Je veux dire que jamais une élection a été aussi peu politique.
Oui,
jamais elle a été aussi émotionnelle. On fonctionne dans un imaginaire.
Ah, c'est imaginaire.
D'un romantisme extraordinaire. Ça, finalement, tous le résistant de quelqu'un ou à quelque chose.
Vous souvenez la chanson « Fais-moi peur, chéri, fais-moi peur ». Bon, bah, c'était ça. Quoi.
Non, mais précisément, le politique consiste, lui, à contracter des alliances. Parce qu'on ne fait pas de la politique tout seul. Or, effectivement, cette campagne, je l'ai d'ailleurs déjà dit, c'est l'abandon total du politique, c'est le triomphe de l'imaginaire. Alors, dans cette, en tout cas, dans cette perspective-là, si Sarkozy donnait des signaux très forts, ne serait-ce que symboliques, ou en tout cas qui parleraient à l'imagination,
un peu de temps,
on pourrait. Alors, c'était. Mais là où vous avez raison, c'est que la gauche, elle, elle va pas laisser faire les choses parce qu'elle verra les.
Elle comprend que ce gouvernement est un gouvernement de combat entre guillemets, destiné à assurer une présence de la droite, enfin de l'UMP, le l'UPM, le l'Union pour la majorité présidentielle, une présence la plus intéressante possible pour le premier tour des législatives. Alors, les gens de gauche, ils sont quand même pas, les gens, ils sont pas tombés de leur lit cette nuit, hein. Et quand même, bon, ils ont compris la manœuvre. Et s'ils veulent ça, il faut absolument qu'ils neutralisent l'électorat de le péniste. Ça, c'est une nécessité vitale parce qu'ils ont compris, ils ont fait leur petit calcul. Il y a peut-être 320 ou 330 circonscriptions en France où ça va se jouer à la triangulaire et que je pense pas que les candidats députés le péniste feront de cadeaux aux amis candidats de M. Chirac ni d'ailleurs aux gens de gauche. Alors, à mon avis, c'est clair. Et donc, c'est une situation, c'est tout le monde qui est piégé.
Oui, c'est vrai.
C'est, tout le monde est absolument piégé. Le piège s'est refermé sur tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que l'avenir n'est écrit nulle part, comme disait le prophète.
Et puis en plus, il y a, enfin bon, Sarkozy, c'est une personne, mais encore une fois, il n'est pas tout seul. Donc il y a un premier ministre. Je doute que Jean-Pierre Raffarin soit. Je suis pas en train de faire une critique a priori de Jean-Pierre Raffarin, mais enfin, c'est, bon, chef d'un gouvernement de crise, je crois pas que ce soit ça.
Non, c'est pas de crise. C'est un montage technique pour s'assurer un bon positionnement, comme ils disent, au premier tour de législative.
Et avec un certain nombre de caractères trempés, dans la liste, on en voit pas mal. Il y a quelques utilités, des petits jeunes dont il faut... On va éviter les nommer parce qu'on est charitable, mais pour en avoir croisé quelques-uns dans une autre vie, je peux vous dire que cette nouvelle génération est absolument brillante. On avait la langue de bois et maintenant on aura, je pense, la langue de plomb ou de la langue... Ou de plus de langue du tout. Tellement le niveau de doctrine de ces pauvres gens et est aberrant et abyssal, hélas, il faut regarder vers ses pieds.
Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, et alors nous avons des messages d'auditeurs là, qui nous arrivent.
Que pensez-vous de la conclusion de Jérôme Jaffray, entendue sur LCI, à propos du deuxième tour de l'élection? En somme, c'est la victoire de la France de Gaulle sur la France de Pétain.
Bon, ça, c'est rien. Alors, qu'on paye, qu'il y ait des gens qui se disent analystes. Alors, Jérôme Jaffray, qu'est-ce que c'est? C'est un sondeur? Je sais pas avec quoi ils sondent, hein, mais ils sont pas bons, hein. Bon, poisson. Alors, il y a des gens, il faut mieux se taire, de faire des mots comme ça.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Non, dans son esprit à lui, c'est son imaginaire.
Non, c'est pas ce que je veux dire. On est dans l'imaginaire. Et donc, il est tellement plus commode de dire, bon bah, il y a les noirs devant et les blancs qui sont dans notre côté, enfin les moutons noirs et les moutons blancs.
Oui, c'est mieux.
C'est évidemment pas. Cela dit, soyons honnêtes, il y a bien sûr ce type de clivage chez certains. Mais globalement, il n'y a pas ce qu'a représenté Le Pen, à savoir au deuxième tour 18,5%, c'est pas la France de Pétain contre 82,5% d'une France de Gaulle. Ça, c'est totalement caricatural.
Cela dit, à certains intellectuels universitaires que Yves-Marie Adeline a dû croiser, qui en sont encore à juger de la situation contemporaine en regardant à la loupe derrière eux dans un rétroviseur qui ferait loupe sur en considérant les prises de position pendant l'affaire Dreyfus. C'est aberrant.
Oui, c'est vrai. Cela dit, soyons honnêtes, il y a quand même...
Non, M. Jaffray est un grand sondeur.
Non, ce n'est pas ce que je veux dire.
Mais n'oubliez pas la CDI, hein. Un grand sondeur.
Non, ce que je veux simplement dire, c'est que, soyons honnêtes, il y a, c'est vrai, des courants idéologiques qui passent, différents d'ailleurs, hein, qui passent au moins dans l'appareil même du Front National. Je ne parle pas de l'électorat. Donc il y a des courants idéologiques différents. Enfin, il peut y avoir un courant catholique, un courant pétainiste, un courant païen. Il y a le...
Non mais Yves-Marie Adeline, c'est clair que M. Jaffray vit dans un imaginaire terrible parce que je n'ai pas entendu dire récemment qu'il y avait des candidats pétainistes en France. Enfin, on est dans un, dans une fantasmagorie terrible. C'est comme si, j'ai entendu aussi un autre commentateur parler d'un espèce de franquisme à la française. Mais oui, enfin, oui. Écoutez.
Enfin, il ne faut pas confondre le, il ne faut pas confondre. Son contraire. Il ne faut pas confondre le pétain et le pétard.
Bah, non. Non, mais cela dit, il serait impossible de se présenter.
Vous savez que pétain, pétuné, ça veut dire, n'est-ce pas, ce sont un petit peu les éternuements qu'on a après avoir pris une prise de tabac. C'est pétuner, ça veut dire se mettre du tabac dans le nez.
Soyons quand même honnêtes.
Mais oui.
Il pourrait pas.
Bah oui, mais moi je ne fais que des métaphores filées, vous comprenez. Moi je suis payé pour ça, très cher sur Radio Courtoisie.
Excusez-moi, Daniel.
Vous êtes tout excusé.
Mouchez-vous, Daniel. Non, soyons honnêtes. Aujourd'hui.
Pourquoi nous ne l'avons pas été jusqu'à présent?
Pas totalement. C'est-à-dire que, bien entendu, que la 5e République repose sur les mythes fondateurs de la 5e, c'est-à-dire effectivement le mythe gaulliste. Donc, il y a des candidats qui s'affirment gaullistes. On ne peut pas imaginer des candidats qui s'affirmeraient pétainistes. Cela dit, ce ne serait pas honnête de dire qu'il n'y a pas des gens, en tout cas dans une certaine région. Qui ont, vous savez très bien que cette fracture, qui effectivement pour ma génération ne représente rien, je suis dans 1960, donc je me moque un peu de ça, mais il y a énormément de personnes qui ont vécu cette période-là, ces blessures-là n'ont pas été refermées, et il y a encore des gens qui, s'ils le pouvaient, se déclareraient des candidats pétainistes.
Bon, je peux faire une méchante
réaction. Bien vieux.
Je pense, et je le dis avec toute affection et un peu d'humour, qu'il y a plus de pétainiste au Front National qu'il y a de gaulliste au RPR.
ça c'est bien vrai.
On peut dire aussi que le général de Gaulle n'a jamais été élu avec 82,5% des voix. Hein.
Ah ça c'est un pronunciamiento dont il
aurait... Il a rêvé,
Sonny
ne l'a pas fait pour lui.
Mais là encore...
Par acclamation.
Non mais c'est vrai qu'il y a peut-être un côté... Non, ce qui est choquant c'est pas ça, parce qu'il faut reconnaître que c'est la conjoncture très particulière qui permet à Chirac d'être à 82,5%. Donc c'est pas parce qu'on est dans une radio, la seule radio libre de France, qu'il faut aussi trop se lâcher. C'est-à-dire que on n'est pas dans un régime du genre tropical, comme disait Étienne Grantaire. C'est vrai que c'est drôle, mais cela dit, c'est pas véritablement ça qui s'est passé. S'il y a un côté totalitaire, c'est effectivement dans le fait que un candidat a été traité sans aucune équité électorale.
C'est même plus de l'équité.
C'est vrai que Jacques Chirac a très peu fait de télévision.
Ce qu'on peut remarquer par exemple, c'est que dans un pays totalitaire ou un candidat, enfin en tout cas autoritaire ou un candidat aurait 82% des voix, il aurait toujours à chaque élection 82% des voix. Là, si Chirac a eu 82% des voix, c'est quand même pour des raisons extrêmement particulières. Cela dit, ce qui fait penser à un régime de totalitarisme mou, c'est que si on comparait à un pays comme la Corée du Nord ou autre qui subsiste encore.
Vous aimez bien désormais cette.
Alors on pourrait en citer un autre. On voit dans ce genre de pays qui n'a pas beaucoup de moyens, on verrait une télévision, une radio, un journal. Bon, ce qui est extraordinaire, et ce qui n'est évidemment pas à l'honneur de la classe française, médiatico-politico, etc., culturelle, c'est qu'il y a, nous avons plein de journaux, nous avons plein de télévisions, nous avons plein de radios, et ils ont tous dit la même chose. Alors là, évidemment, c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il n'y a eu aucun débat possible, nulle part, alors qu'il y avait un éventail, en principe, extraordinaire de moyens médiatiques, de journaux, etc. Donc, là, il y a un côté totalitaire de toute évidence. Il n'est pas normal, on ne va pas faire croire qu'il soit normal que des journaux, sur tout l'éventail qui existe, évidemment, il y a eu quelques petites feuilles de choux qui se passent sous le manteau ou par abonnement, et encore les facteurs ne veulent pas le distribuer.
Il y a eu des problèmes avec d'autres journaux aussi.
Bon, alors, on voit tous ces gens-là qui disent la même chose. Ça, c'est effectivement...
Sachant que M. Besnan se nourrit facteur, alors autant vous dire que nos journaux, il les soigne. Hein. Mais là, aujourd'hui, je le soigne ce soir-là.
Hein? Non, ça, c'est vrai que, c'est le côté un peu totalitaire. Voilà.
Mais c'est simplement
un peu totalitaire.
Oui, non, non, je veux dire...
Qu'est-ce que ça va être quand ça va être plus totalitaire, alors?
On défilera en ordre, monsieur, dans les rues.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça ressemblait beaucoup à Pyongyang, Paris, au lendemain du premier tour, le lundi matin.
C'est vrai que tout à l'heure, quand
les manifs, là, les camarades, ils ont encore des efforts.
C'est vrai, je regrette, Yves, d'avoir dit tropical tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'à Cuba, on a toujours défilé un peu en désordre. Même aux grandes heures
quand même moins,
du
moins,
leader
moins.
Maximo.
Bon, ça, c'est le côté latin, évidemment, qui est pas... Mais là, par exemple, chez les Coréens, ça, je peux vous garantir que là, alors là, les mecs avec des barbes et des catogans, ça n'existe pas. Non. Alors là, il y a les camarades, je vous dis, encore un effort, si vous voulez devenir révolutionnaire, bon... Voilà. Sinon,
non, mais c'est même presque plus terrible que ça, parce que je parle pas ensuite de la nature du régime qui est évidemment épouvantable en Corée du Nord, mais ce qui est terrible, c'est que il y a un sentiment de liberté qui anime ces gens qui défilent, et en fait, leur esprit est totalement capté pour, par l'ignorance, par l'éducation nationale qui leur a menti, il y a quelque chose d'encore plus terrible, je trouve, parce que vous savez, moi je suis allé en Union soviétique.
C'est pas plus terrible que
du temps du communisme et même dans d'autres pays.
Moi je m'en doutais, Daniel Lamif, que Yadlin était allé en Union soviétique avant.
Non mais on voyait bien quand même que la propagande était tellement grossière que même si on mentait, et il y a des gens, je me souviens, je parlais de Nicolas II à des gens de mon âge et qui disaient Nicolas le sanglant, le sanguinaire, le tyran, parce qu'ils répétaient ce qu'on leur avait appris à l'école. Cela dit, le régime était tellement grossièrement brutal. Qu'ils étaient quand même capables d'essayer de prendre du recul et se dire bon, on nous fait marcher, on nous ment, etc. Tandis que là, c'est dans le coton que ça se passe. C'est vraiment il y a quelque chose de terrible dans cette aliénation. Quoi.
Enfin, en tout, n'est pas Kim Il Sung qui veut, de toutes les manières, et M. Chirac est encore très très loin de son modèle nord-coréen. Voilà. Surtout que, hein. Voilà. Alors, des messages d'auditeurs avant qu'on passe à quelques commentaires.
J'ai compris ce que les Français ont dit à assurer Chirac, place de la République. Ça rappelle De Gaulle en 58 à Alger, mais il n'y avait pas de drapeau algérien et marocain à Alger, contrairement à la République à Paris.
Quelle jolie remarque d'auditeur, comme c'est finement analysé. D'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps à la République, hein.
Oui.
Hein? Vous avez vu que on attendait qu'il
y avait un très beau drapeau,
enfin, 82% la victoire, c'est nous, etc. On pensait qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, des feux de Bengale, enfin même peut-être des feux d'artifice.
Non, mais il y avait quelque chose de pathétique,
des fontaines de vin coulant dans tous les quartiers,
des distributions
de tapioca pour tous les vieux. Ah, ça, il y a eu 3000 personnes, la plupart
Le pathétique, c'était Jacques Chirac qui a repris sa voiture. Il a changé de voiture, vous avez remarqué.
Ah non,
il n'a plus sa vieille SM.
La SX.
CX. Oui, c'était une CX, oui, peut-être. Il a refait un tour. Alors là, c'est une 607 maintenant.
Ah, c'est plus chic.
Et il ouvrait les fenêtres pour... mais il n'y avait pas de foule. Il n'y avait pas de public.
Il pleuvait.
Écoutez, il faisait froid. Alors, et c'était terrible.
Écoutez, c'est la seule chose que le régime n'a pas pu rafler, c'est le beau temps.
Oui, ben voilà. Le beau temps.
Et même pas vous plaindre.
Voilà. Donc, autre message d'auditeur.
On va voir la présidence la plus courte et le gouvernement qui aura le moins duré.
Non, la présidence la plus courte, le problème n'est pas là.
Qu'est-ce qu'il a le gouvernement a duré ?
Non.
Et le gouvernement qui aura le moins duré.
Ah, le moins duré, c'est meilleur pour la santé du gouvernement.
Non,
parce que durée,
c'est pas la présidence. Le problème de la présidence, il n'est pas là. Le problème de la présidence commence à partir du moment où on installe le quinquennat. À partir de ce moment-là, s'installent aux manettes deux autorités, dont une est en trop. Le septennat avait un sens, si l'on peut dire, dans la mesure où il essayait de réconcilier des théories à la fois Montesquieu et Maurras, on va dire, installer une sorte de roi à titre temporaire, avec des pouvoirs d'ailleurs bien plus considérables que ceux que n'ont jamais eu les rois de France.
Mais peu importe.
À partir du moment où vous mettez un quinquennat dont où vous élisez le président à la même époque que l'Assemblée nationale, et que donc le chef du gouvernement existe, alors vous installez deux personnages dont l'un est en trop. Donc la question, lorsque le quinquennat est arrivé, j'avais écrit que ça signerait la disparition du président de la République de son pouvoir. C'est-à-dire que le président de la République redeviendrait un président de troisième République. Soit, effectivement, on arriverait dans un scénario à l'américaine où il n'y aurait pas de Premier ministre, mais ça, j'y crois assez peu. Je crois plutôt en un président potiche qui arrosera des fleurs. Alors ce sera encore plus vrai si nous arrivons dans une quatrième cohabitation où là, décidément, non seulement Chirac aura fait passer le quinquennat et à cet égard aura détruit la fonction présidentielle, mais si en plus il nous remet dans la cohabitation, bon, alors là, c'est la fin du président de la République, oui, tel que nous l'avons connu.
Sauf que le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée.
Alors c'est vrai. C'est
et que le président de la République oui, peut vrai. Aussi avoir le côté inesthétique de mourir en cours de quinquennat.
Oui, oui,
que là, non, attendez, on se retrouve. Ouais. Bah oui, mais alors
il y a autre chose, c'est qu'à force de jouer chimiste, on risque de se faire péter la. Et c'est ce qui, quand même, lui est arrivé avec la première dissolution.
Oui, oui, oui.
Donc, ouais. Il n'est pas né, je pense, le futur Dominique de Villepin, puisque M. de Villepin vient de passer ministre des Affaires étrangères. Donc, le futur Dominique de Villepin, puisque c'est lui qui avait conseillé la première dissolution.
C'est pas les Affaires étrangères,
qui conseillera et convaincra Jacques Chirac de dissoudre une deuxième fois.
Ça, c'est
à moins de se dissoudre dans le grand tout, c'est possible, mais.
Allez savoir, la chaleur communicative des banques, tout ça, on boit un peu plus que de raison, Chirac le dit d'ailleurs.
Et cela dit, l'auditeur posait aussi la question de savoir si le gouvernement serait.
Sa question complète, c'était va-t-on avoir la présidence la plus courte et le gouvernement qui aura le moins duré, puisque le RPR ne veut pas de désistement réciproque avec le Front National, qu'il a qualifié d'allié aux forces du mal, aux heures les plus sombres de
Non, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que il est possible que Jean-Pierre Raffarin soit Jean-Pierre Lebref. Et part dans un mois et demi. Ça, c'est très possible. Parce que s'il est, encore une fois, il reste à savoir si
le. Raffarin et demi, peut-être. Peut-être pas jusqu'à.
Si l'électorat du Front National, enfin de Le Pen, reste un électorat mobilisé, il est clair que s'installeront des triangulaires un peu partout et on reviendra en 97. Autrement dit, on retourne presque à la case départ.
Alors là, ça sera même aggravé par rapport à 97.
Oui,
c'est vrai qu'il est possible que le Front National ait cette fois-ci, dans certaines circonscriptions, parce que quand même il y a des endroits où Le Pen a fait jusqu'à 40% des suffrages exprimés, c'est quand même beaucoup. Ça peut vouloir dire qu'il pourrait y avoir une petite minorité d'élus Front National.
Oui, mais politiquement, l'essentiel. Si elle ne serait pas là, que le Front National ait trois députés ou un député. En 97, le Front National a eu un seul député. Oui. Il a quand même fait chuter Chirac simplement parce qu'il s'installait. Enfin, il se maintenait au. Alors, à ce moment-là, il faudrait trouver. Mais bon, là, ce serait un événement. Je n'y crois pas beaucoup. Il faudrait parce que c'est impossible. Bayrou voudrait ça, que la droite se fonde dans la gauche pour réussir à résister au Front National. Mais ni les uns ni les autres ne veulent de cohabitation. Il faudrait que pendant la campagne législative, ils se fondent l'un dans l'autre. Ça, c'est inimaginable.
Je pense que c'était un cadeau posthume, un des derniers, probablement, en attendant mieux, de François Mitterrand, a, disons, on va dire, encouragé d'une bienveillance redoutable la montée du Front National. Et on assiste aujourd'hui à une pince qui se referme, c'est le piège diabolique, avec une droite qui d'ailleurs, une droite constitutionnelle, par le parlementaire qui ne s'assume plus, et qui de toute façon n'en a plus les fonds doctrinaux, et puis surtout pas la volonté, et qui va se retrouver crabouillé entre une gauche qui elle est fidèle à ses engagements, même si les oripeaux changent, comme vous le disiez tout à l'heure Yves-Marie Adeline, elle reste de gauche, elle reste utopique, elle reste despotique par essence et par pratique,
de toute façon.
Et une droite qui est de droite, incarnée aujourd'hui par Jean-Marie Le Pen et demain par qui sait.
De toute façon, tous ces gens-là, c'est des
malades, disons. Mais entre les deux, je vois pas très bien les conditions de survie d'un Douste Blasi, on pourrait en citer hélas beaucoup d'autres.
Mais le problème, c'est que le grand problème de cette droite parlementaire, c'est que pendant des décennies, elle a pu survivre parce que, ayant lâché le combat idéologique,
voilà,
elle gardait au moins le combat économique tant que la gauche vivait sur ses utopies égalitaires. Mais à partir du moment où la gauche mitterrandienne, à partir de Mitterrand vers 83, la gauche a commencé à glisser vers l'économie de marché, à reconnaître l'économie de marché, qu'est-ce qui reste à la droite? Strictement rien, puisqu'elle a laissé tomber le combat idéologique, enfin politique lui-même, sur les grands principes. Donc cette droite-là n'a plus aucun sens. Alors cela dit, c'est vrai qu'il y a aussi cette gauche qui s'est recentrée parce que ben, les réalités sont là et que bon, c'est quand même l'économie de marché qui fonctionne le moins mal par rapport en tout cas à l'économie administrée. Bon, ça laisse la marge à des groupes d'excités. Mais cela dit, la gauche a toujours eu besoin d'un aiguillon comme ça qui et puis encore une fois, elle est dans son système. Donc de l'aiguiller à chevènement, la gauche est comme un poisson dans l'eau, quelles que soient les illusions que ont pu nourrir certains à l'égard de la candidature de chevènement, qui est naturellement retournée à la niche.
Sicut canis cuire vertitur ad vomitum suum. Je crois que c'est
le chien retourne à son vomi.
À son vomi, oui, comme un chien qui retourne
comme un
son
chien.
Vomi. C'est dans l'écriture, c'est dans la Sainte Écriture.
Oui. Non, mais c'est vrai, parce que Hollande l'avait dit d'ailleurs, au-delà du clivage droite-gauche, il n'y a rien, donc chevènement reviendra un jour. Cela dit, si les hommes de droite connaissaient aussi bien la droite et la gauche que ne la connaissent les hommes de gauche, ça irait peut-être mieux pour la droite.
Peut-être. Ouais. Merci Yves-Marie Adeline de tous ces commentaires. Nous allons maintenant vous libérer, parce que vous aussi, vous prenez un train.
Ah oui.
Et voilà, vous prenez un long train pour un autre train.
Une dernière petite question.
Oui, rapidement.
Le travail effectué par Mme Thatcher en Angleterre pourrait-il être réalisé en France par un vrai gouvernement de droite?
Non, le système. De toute manière, on est dans une période de crise. Enfin, oui, une dame de fer qui arrive.
Non, mais de toute façon, nous sommes en France.
Allô Marie, par exemple.
Allô Marie. Non, mais attendez.
Allô Marie, dame de fer.
Non, mais cette question est intéressante parce que d'abord, nous sommes en France. On n'a pas besoin de systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder à côté, mais c'est très très délicat pour la France, qui a en elle-même des ressources politiques, historiques, religieuses assez riches pour former quelque chose d'autre que la République révolutionnaire que nous subissons aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire l'économie de ce genre d'analogies qui sont dangereuses en plus. On entend souvent chez certains libéraux, pas tous, mais certains, une espèce d'américanolatrie qui est un peu pénible. Ce sont des pays qui ont des histoires différentes, des mœurs politiques différentes, et donc la comparaison n'est vraiment pas raison en matière politique. Madame Thatcher est certainement une excellente femme décidée, avec un caractère bien trempé, mais demander aux mineurs...
C'est l'anglais.
Demander aux mineurs de Petite-Écosse ou du nord de l'Angleterre, ou enfin un peu plus au sud, pardon, de l'Angleterre, ce qu'ils pensent de Madame Thatcher, vous verrez que c'est assez sévère. Ils n'aiment pas beaucoup. Ils n'ont pas pris des pincettes pour régler ce genre de conflit. Il
faut dire aussi que dès qu'elle est arrivée au 10 Downing Street, il n'y avait plus de charbon. Donc évidemment, c'était pour les mineurs, c'était comme embêtant. Parce que même les premiers ministres, M. Raffarin, ne peuvent pas mettre du charbon. Là, il n'y en a pas.
Et puis, il faut tout de même ajouter que le socle de l'État n'était pas du tout le même. Puisque c'est une monarchie. Donc à la limite, Thatcher pouvait s'adosser au moins à cette solidité. C'est là, même si c'est une monarchie constitutionnelle dont on peut penser ce qu'on voudra. Tandis que là, il y a le système lui-même, il y a l'État lui-même qui est en équilibre en ce moment. La comparaison n'est pas raison en l'occurrence.
J'avais entendu la semaine dernière Michel Junot dans l'émission de Monsieur Ferré qui avait dit le drame de la droite, c'est qu'elle s'est choisie des chefs qui ne sont pas de droite. J'avais trouvé ça très bien.
Oui. Mais est-ce que la droite, d'abord qui est la droite, elle s'est choisie, d'abord il n'y a pas de camp politique qui se choisit
des électeurs.
Les électeurs par leur simple fait de condition d'électeurs, c'est-à-dire qu'ils ont autre chose à faire que de faire la politique tout le temps, et Dieu merci, sinon les politiques n'auraient pas de travail. Les électeurs voient les choses avec une certaine distance, donc on leur agite le petit chiffon blanc, ils se disent « Ah bah oui, mais je suis blanc, mon père était blanc, mon grand-père, donc je vais voter blanc. » C'est à l'intérieur du système que se produit une espèce de mutation des élites objectives. C'est pas la droite qui choisit les chefs, c'est le système produit des élites qui renoncent à ce qu'elles sont, renoncent à leur doctrine, pour se fondre et pour pouvoir nager aussi bien que possible dans ce système de gauche.
Voilà, c'est exactement ce que
sauf que la droite a tout à y perdre, car ça n'est pas son régime.
Voilà.
Dernière question. Oui, parce qu'on a plus beaucoup. Tout court. Oui. Pour les élections législatives, comptez-vous présenter votre candidature?
Non.
Vous, c'est les européennes.
Les élections européennes en 2004, une liste explicitement royaliste, unitaire, pour essayer de faire ressurgir dans le débat politique la question de institutionnelle.
Institutionnelle de la royauté. Quoi.
Dernier, dernier.
Ah, ça c'est Jean-Jacques... pas vrai, mais il dit que c'est la dernière.
Jean-Jacques, j'ai approuvé celle entre-temps. Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture,
oui.
Demande si le film préféré de messieurs Adeline et Amiche est également La Grande Illusion, entre parenthèses, en attente de la monarchie.
Oui, bah c'est, je ne pense pas.
Mais je vais vous dire
ça va, moi je pense que la monarchie.
Non, mais je vais vous dire une chose. Bon, depuis, fille, depuis, fille, ouais, alors d'accord, je me dépêche, je prends mon train. Depuis longtemps, depuis longtemps, j'essaie de faire prendre conscience à des républicains de droite que ce sont eux qui s'illusionnent, ce sont eux qui se trompent, qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent faire épanouir les valeurs auxquelles ils adhèrent dans un système qui leur est contraire. Et donc le véritable réalisme, c'est d'essayer de reprendre les choses à la base. Alors je sais bien que c'est plus difficile, et ça demande aussi des mutations culturelles pour certains, ou intellectuelles, mais ça, c'est le véritable réalisme, même si c'est un combat plus long. Les rêveurs, ce sont ceux de nos amis qui sont dans une droite républicaine, en disant, c'est par là qu'on va faire épanouir les valeurs. Non, ça, les illusions sont plutôt du côté de cet éditeur.
Alors, toutes ces explications que vous donne Yves Marialine, vous pouvez les retrouver dans un livre qui a paru il y a 2 ans, hein, c'était deux en étés début, ou oui. Deux, trois étés.
Enfin là, ce serait plutôt
un début. Livre d'entretien entre Yves-Marie Adeline et Hugues de Soicourt, rédacteur en chef enfin directeur de la rédaction du Légitimiste, qui s'appelle La droite où l'on n'arrive jamais, qui est un livre épatant, c'est un livre de poche, fait 320 pages, c'est très dense, il y a beaucoup à lire, beaucoup à découvrir. Et alors, alors si les auditeurs sont intéressés par ce livre, ce sera 10 euros. 10 euros, ça fait combien de sous?
Non, c'est cher, ça fait 65 francs.
Ah, ben, le porc.
Non, le
porc. Ah, là, le porc, il y a le porc. Ouais. C'est le porc, mais le porc est hors de prix aujourd'hui avec la crise du bœuf.
C'était moins cher en 2000.
Bah non, le livre,
c'est l'éditeur.
Alors, tiens, disons, allez, on sacrifie. Ce soir, on sacrifie. 9 euros. Voilà, pour 9 euros, vous avez La droite, on n'arrive jamais, et le porc.
Ouais.
Ah, écoutez, mais, c'est quand même pas mal. Dans la foule, où est-ce qu'on peut le trouver? 22 rue Lido, Paris 14e, 22 rue Lido, Paris 14e, à l'ordre de Sicre.
Cela dit, voilà. Il y a aussi la droite piégée, en l'occurrence, pour faire comprendre, par exemple, à cet auditeur le problème.
Oui, oui.
Mais la droite piégée est plus conceptuelle. Enfin, plus.
Voilà, faut commencer par des choses simples. Là, je vous invite vraiment à le lire. Enfin, vous l'avez lu, vous, Grand Air.
Ben, je l'ai d'abord colorié, comme tout le monde, et puis ensuite, je l'ai lu, et là, je commence à comprendre à peu près.
Vous l'avez lu, Victoria?
Mais oui.
Et vous, messieurs, là-bas, vous l'avez lu? Oui, tout le monde l'a lu. C'est extraordinaire et j'ai encore des stocks. Bon, alors c'est très bien. Donc, 9 euros, La droite, on n'arrive jamais, entretien entre Yves-Marie Adeline et Hugues de Soicourt, Sicre, 22 rue Lido, Paris 14e. Yves-Marie Adeline, merci beaucoup de votre prestation. Et puis, on se reverra tout bientôt, je pense, pour commenter les législatives qui arrivent au galop. Comme le mascaret. Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.
Et on se reverra. C'est ça, dans sous peu. Je vais demander à notre ami Sébastien de Querreiro de bien vouloir prendre le siège. C'est vraiment c'est la lutte électorale. Non, passez derrière moi, Sébastien. C'est la lutte pour les places. C'est comme aux élections. C'est pareil, Radio Courtoisie. Et nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Alors, je vais maintenant discuter un tout petit peu avec nos amis du Cœur Montjoie Saint-Denis qui viennent nous parler d'un nouveau double CD qui vient de paraître, qui paraît il y a déjà 2 mois, non ? 1 mois et demi, 2 mois. Alors, Jean-Baptiste Chaumeil et Bertrand Duboulet qui sont présents. Vous avez un micro que vous pouvez balader comme à la télévision. Enfin, pas trop quand même, parce que, voilà, dites-vous au revoir, c'est ça, c'est pas le mot. Très bien, monsieur Adeline, merci beaucoup, au revoir, mais il est en train de faire saluer tout le monde. Bah, bon, au revoir, monsieur Adeline. Il est en train de faire sa campagne électorale. Il salue toutes les mains. Non, laissez ouvert.
2004.
Voilà, donc, Bertrand Duboulet, vous voulez en parler un petit peu?
Et voilà, c'est un CD que nous avons, un double CD, pardon, compact disque, que nous avons produit pour Noël.
Disque compact.
Après de longs efforts commencés dès 1994. Le Cœur Montjoie Saint-Denis a un chef qui a une grande dévotion à la Sainte Vierge. Un chef unique à vie, leader maximo du cœur.
Ah oui, là c'est vraiment...
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Oui. C'est presque Chirac.
Notre chef.
Mais il est élu d'ailleurs.
Non,
il est
pour cette activité-là. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il est élu à 100%.
Non, c'est pas, il dit que c'était 110%.
Ah bah oui, parce qu'il vote aussi.
Ah voilà. Et la voix du chef compte pour 10.
Voilà. Donc nous avons voulu...
Il y a une élection tous les 100 ans.
au-delà des simples cassettes que nous avons fait, une cassette par série de mystères, la première en 94, seconde en 96 et la troisième en 98 ou 99. Ce travail nous a permis de recenser 18 Ave Maria que nous n'avons pas pu tous mettre sur les différentes cassettes. Donc nous avons voulu à la fois profiter de la technique moderne des lecteurs de disques compacts et nous avons voulu en même temps, sur cette œuvre, produire 15 dizaines avec 15 mélodies différentes d'Ave Maria.
C'est ça qui est tout à fait extraordinaire parce qu'on en connaît quelques-unes. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être pouvoir, si Franck le peut, je pense qu'on... Oui, vous avez prévu qu'on passe au moins un Ave Maria. Oui. D'abord, ça va un peu nous rincer la bouche parce qu'avec toutes les bêtises qu'on a dites, il est temps quand même de se brosser les dents. Mais surtout, vous allez voir que ce sont... Il y en a que je ne connaissais pas du tout.
Je n'en doute pas. Si vous êtes né en 1960, effectivement...
Non, je suis un peu plus vieux quand même. En 60, j'avais déjà fait ma première Covid, tout de même. Bon, mais il y en a que dont je me souvenais absolument pas.
Les plus anciennes datent du XVIe siècle.
J'étais pas né encore. Merci beaucoup, c'était aimable.
Et puis les plus récentes datent de l'an 2001.
Ah, 2001, il y a encore une mélodie.
Vous n'êtes toujours pas mort.
Non, je suis encore là. Bon, on écoute, alors qu'est-ce que vous avez prévu qu'on écoute? Ou alors on écoute d'abord, puis vous nous direz ce que c'est après?
Volontiers.
Jérusalem, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour
Alors ça c'est un... Je vous salue. Alors je rappelle que bon, le rosaire... Vous pouvez dire un petit mot sur le rosaire quand même?
Oui, on dira peut-être
rapidement ce que c'est que le rosaire quand même. C'est une grande prière catholique qui date...
Alors le rosaire est une grande prière, mais qui date de plusieurs siècles. On ne peut pas dire de plusieurs millénaires, mais presque d'une certaine façon. Parce que le rosaire sous sa forme actuelle date en gros du pape Saint Pie V. Mais dès les premiers siècles, les frères convers, qui ne savaient ni lire ni écrire, avaient pour habitude de réciter les patères, et ils récitaient 150 patères, comme les moines chantaient les 150 psaumes. Voilà. Donc le chiffre de 150 vient de là. Et puis après, il y a une mise en forme successive, notamment sous l'impulsion de Saint Dominique, à qui la très sainte Vierge Marie a demandé de réciter les Patenôtres sous forme de dizaines, entrecoupées de méditations sur les 15 mystères du chapelet.
Le chapelet, c'est-à-dire les 5 glorieux, 5 mystères joyeux,
5 mystères douloureux, 5 mystères glorieux, pour respecter l'ordre.
Respecter le saint ordre. Donc voilà, c'est une prière extrêmement, à la fois très, très sainte, très, très, très populaire, je dirais, mais extrêmement riche par, précisément la façon dont on peut le réciter, dont on peut chanter, en pèlerinage notamment, dont on peut chanter les Ave Maria. Et alors là, on en a quand même, il y en a 15, combien qu'on nous a dit, 15 différents, quoi.
15 mélodies différentes.
C'est tout à fait extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce...
C'est un petit peu le but de ce disque. Le premier, c'est de soutenir les personnes isolées, les personnes malades, en leur donnant du cœur, en leur donnant une spiritualité, une musique aussi qui est associée aux paroles et qui les aide dans leur foi. Le deuxième, c'est de renouveler l'ardeur des pèlerins. L'abbé Pozzetto en parlait tout à l'heure. Renouveler l'ardeur des pèlerins en chantant, en marchant et en chantant des airs nouveaux, des airs non répétitifs, enfin des airs répétés 10 fois seulement, et des airs spécifiques adaptés à chaque dizaine. Parce que dans la musique religieuse, il est très important que chaque air soit associé à la spiritualité du moment. Quand vous récitez un Ave Maria dans le mystère de l'Annonciation, vous ne chantez pas de la même façon que pour le mystère de la flagellation ou de la résurrection. Donc on a tenu à choisir dans ses mélodies des airs qui correspondaient à chaque mystère.
Alors, j'allais dire quelque chose et puis alors je viens d'oublier. Donc je vais dire quelque chose, je viens d'oublier. Je sais plus ce que c'est.
Oui, mais... alors, ben, bon, aidez-moi, vous, Victoria, qui est une grande fanatique du chapelet.
Je n'ai pas suivi, excusez-moi.
Ah ben voilà, c'est très bien. Comptez, on ne peut pas compter sur ces...
Encore un tout petit
mot. Oui, vous avez le mot, mais je vous dire quelque chose.
Nous avons eu la chance, dans cette recherche, dans cette quête des airs, des mélodies de Je vous salue Marie, de retrouver 3 plus 1, c'est-à-dire 4 airs de Je vous salue Marie, composés par l'abbé Rebout. Cet abbé avait composé ces 3 airs de Je vous salue Marie à l'occasion de la relance, entre guillemets, du Pélé de Chartres dans les années 30, dans l'esprit de Charles Péguy, en cheminant 3 jours. Et à cette époque-là, le pèlerinage, c'était autre chose que maintenant. Il y avait la logistique, c'était sur le dos qu'on la portait. Le sac à dos, c'était sur le dos. Il avait composé 3 mélodies. La troisième, celle choisie pour les mystères glorieux, était si difficile à chanter tout en marchant qu'il a dû en composer une quatrième. Et finalement, c'est celle-ci qui est restée, comme sous l'appellation populaire, connue de tous, du « Je vous salue Marie » de Chartres. Mais en fait, il avait composé d'autres mélodies que nous avons retrouvées grâce à une pèlerine des années 30, qui a été interviewée un jour sur une radio, sur une autre radio, 100.7, Radio Notre-Dame, on ne va pas faire de publicité. Et donc cette dame, interviewée par Aude de Chantérac, avait raconté l'histoire des compositions de l'abbé Rebout, et puis...
Ça m'est revenu de fil en aiguille ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que maintenant vous êtes extrêmement prudent quand vous avez dit que c'est très bien pour les pèlerins, pour se préparer, etc., comme l'a dit l'abbé Pozzetto. Alors je dois dire aussi comme l'a dit l'abbé de Tannouarne, parce qu'il y a le, vous voyez, il y a, voilà. Puis, alors vous d'ailleurs, vous templez, tiens, alors ça c'est Jean-Baptiste Chomeil. Vous avez toujours eu au cœur mon joie saint nu, vous êtes très écuménique et chantant.
Oui, alors évidemment, Jacques Arnoux est le chef du cœur Montjoie Saint-Denis. Il a été, il est aussi chef de chapitre dans le pèlerinage de Chartres,
bien près du micro,
de Chartres de Paris à Chartres. Et lorsque il y a eu la séparation que l'on connaît en 1988-89 plutôt, eh bien, il m'a demandé d'ailleurs d'être le chef de chapitre de l'autre côté, c'est-à-dire le côté Chartres-Paris. Ce que j'ai fait pendant 10 ans et ce qui montre qu'il y a dans le cœur Montjoie Saint-Denis un œcuménisme de bon aloi. Il y a même un orthodoxe, il y a même des gens qui pratiquent plus ou moins. Voilà. Oui. Et donc nous sommes tous unis autour du chef et autour de la Sainte Vierge.
C'est très bien. Moi je trouve ça très bien parce qu'on les voit dans les deux.
Il n'y a pas de problème. Le cœur Montjoie Saint-Denis est venu aussi chanter à la veillée du pèlerinage de tradition. Il y a des pèlerins de Chartres-Paris, donc du pèlerinage de tradition, qui viennent chanter à la veillée du samedi à Choiseul au pèlerinage de chrétienté. Donc il n'y a jamais eu au sein du cœur Montjoie Saint-Denis un quelconque problème à ce sujet-là.
Bah c'est magnifique. Comme quoi, avec un peu de bonne volonté, un peu plus de bonne musique... et beaucoup plus de vin.
Oui, je m'attendais à ce genre de...
Ah ben, il faut bien, ça je peux pas. Je ne peux pas ne pas le faire.
Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que le cœur Montjoie Saint-Denis est un cœur d'homme, oui. Ce qui évite peut-être quelques divisions.
Oui, ah ben voilà, alors ça c'est agréable. Alors voilà, donc la parité ce soir vient d'en prendre un grand coup. Je suis désolé, madame, comment elle s'appelle, madame... comment elle s'appelle
Bachelot.
Oui, excusez-nous, Madame Bachelot, Roselyne, pour les intimes. On ne le refera plus. Monsieur Duboulet, vous ne serez plus jamais invité à la radio.
Vous connaissez la définition de Madame Bachelot par elle-même.
J'ai peur.
Elle s'est présentée hier à la radio comme étant anarcho-libertaro. Chiracienne.
Elle est anarcho-chiracienne.
Grand moment de télévision hier soir.
Anarcho-libertaro-chiracienne.
Voilà, c'est ça.
Elle élève des chiens
ou... Je ne sais pas.
Il y a des choses que je ne comprends pas.
Je ne sais pas ce qu'elle broute, je ne sais pas ce qu'elle fume, mais vraiment, elle devrait changer. Parce que c'est ça fait peur.
Elle est efficace, parce que tout le monde s'en souvient.
Ça fait peur.
Oui, alors pour revenir sur ce double disque compact, il y a aussi des rendez-vous, donc les prochains rendez-vous du chœur, donc dans les pèlerinages de tradition et de chrétienté, évidemment. Le chœur se produira aussi à la veillée de Choiseul, le samedi 18, dans le pèlerinage de chrétienté. Et nous avons notre rendez-vous mensuel tous les premiers mercredis de chaque mois chez la Mère Agitée,
qui se trouve
chez Valérie, que nous saluons, 21 voilà. Rue Campagne Première, Paris 14e.
Qui se trouve être par extraordinaire notre siège social. Et dans lequel on peut commander les cassettes. Alors par exemple, ce double disque compact peut être commandé à cet endroit-là, 21 rue Campagne Première dans le 14e, au prix de
25 euros
plus 3 francs de port.
Je rappelle qu'il y a deux CD. Deux disques compacts.
Il y en a donc pour 2h25 d'écoute. Il nous fait un petit Paris-Rennes en voiture.
En voiture, oui.
Avec double CD, voilà, et des moments de prière.
C'est très beau. Puis alors, on dit quels sont les mystères. C'est très, très, très bien fait. C'est très varié. Vraiment, c'est super varié.
Il y a un entrain tout à fait propre au cœur Mont-Jean-Saint-Denis qui est assez vif, assez nerveux et assez enthousiasmant. D'ailleurs, le coffret est équipé d'un petit livret d'explications sur l'histoire du « Je vous salue Marie ».
Joliment imprimé. Et
voilà, un auditeur vous demande de quel « Je vous salue Marie » s'agit-il. On vous a coupé la parole.
Le morceau choisi était un « Je vous salue Marie » de l'abbé Thévenon. Donc du XXe siècle.
Voilà. Très bien, merci camarade Bertrand Duboulet. Vous voulez encore ajouter un mot? Vous avez encore 30 secondes.
Quelques tout petits mots. Donc le livret explique à la fois l'histoire, l'origine du rosaire, de la récitation du rosaire. Il explique également l'histoire de la composition du Je vous salue Marie, depuis l'annonce de l'ange Gabriel jusqu'au dernier mot du Je vous salue Marie. Donc ceci nous a été donné, entre autres, par Madame Bay de la revue Transmettre, qui nous a grandement aidé à faire ce magnifique livret.
Eh bien, nous la remercions. Donc, je rappelle que le rosaire chanté, etc., c'est deux disques compacts sous coffret, prix public, c'est 25 euros. Et pendant toute la durée des pèlerinages, c'est-à-dire pendant tout le week-end de la Pentecôte, vous pouvez acheter deux coffrets pour le prix exceptionnel de 50 euros. D'accord.
Oui,
ça ne percute pas vite, hein. C'est comme.
Oui, parce qu'on ne comptera pas le port, puisque le CD sera dans le sac.
Voilà, le port est sur place.
Grillé.
Et Chine, côte, enfin tout ce qu'on veut, le port grillé. Donc il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez vous procurer, oui.
On va passer donc à ma dernière petite annonce sur au sujet du cœur montjoie. L'un des prochains CD du cœur montjoie sera consacré à Sainte Jeanne d'Arc.
Parfait.
Et nous sommes en
recherche.
Alors,
vous recherchez en recherche. Non, vous êtes à la recherche, pas en recherche.
Nous sommes à la recherche de mélodies, de partitions, parce que c'est une nouveauté. Pour ce CD, nous avons chanté avec des partitions.
Pas possible.
C'est assez original. Si, je les ai apportées avec moi.
C'est pas vrai.
Bon, néanmoins, je dois reconnaître que l'ingénieur...
Quand on joue à Saint-Denis avec des partitions, c'est la fin.
Avec des partitions, ça a été une certaine révolution, même le chef s'y est mis.
Ah, quand les femmes au cœur de Montjoie Saint-Denis, non, là vraiment... Là,
mais je dois reconnaître que nous avons été grandement aidés par notre ingénieur du son, puisqu'il a même un instrument extraordinaire qui permet de relever d'un quart de ton ou d'un huitième de ton des notes fausses.
Ce qui arrive très peu au cœur de Saint-Denis.
Jamais. Il n'a pas eu besoin d'utiliser beaucoup son appareillage diabolique.
Il l'a fait pour une note sur le Amen qui termine le credo.
Et puis une note fausse chantée ensemble est une interprétation.
Tout à fait. C'est très juste. Tout ça me semble très juste. Alors donc, vous retrouverez le cœur Montjoie Saint-Denis le premier mercredi.
Premier mercredi de chaque mois au siège social, au 21 social. Rue Campagne Première dans le 14e.
Paris 14e et Paris 14e. Paris 14e, ligne 91, métro Campagne Première. Alors maintenant, on écoute un tout petit morceau d'un petit Ave Maria.
Alors, c'est un Ave Maria ukrainien qui a été composé à la mode sur un air ukrainien qui a été composé, arrangé par notre chef vénéré Jacques Arnoux.
Que voilà. Dieu le garde.
Le disque comporte deux airs composés par des membres du chœur.
Ave Maria. Oh.
superbe, magnifique. Et vraiment, vous en avez comme ça, il y en a pour combien hein?
2h30.
Il y a 2h30, donc alors n'hésitez pas. Merci, cher camarade Jean-Baptiste Chaumeil, cher camarade Bertrand Duboulet, parce que maintenant hein, que tout va changer, il faut commencer à s'en reprendre les bonnes habitudes. Animateur du chœur Montjoie Saint-Denis, chez Valérie 21 rue Campagne Première, Paris 14e. Le CD, 25 euros, rajoutez 3 euros de port si vous voulez l'avoir chez vous.
Merci, voilà. Camarade Daniel.
Eh bien, je vois que les bonnes habitudes se prennent. Excellent. Merci. Tout ça. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez, sauf si vraiment vous n'avez pas envie de rester. Alors, je passe maintenant la parole à un autre bon camarade à nous, Guy Le Hideux.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Qui cette fois-ci, ce soir, exceptionnellement, ne vient pas parler des bandes dessinées des autres, mais de la sienne propre.
Mais sous pseudo.
Mais sous pseudo,
on va tout savoir.
J'ai pas compris pourquoi il vous a mis sous pseudo l'édition du
Crayon. Je vous le dirai pas.
Mais non, c'est, vous êtes connu, c'est un petit peu bizarre.
Il a peut-être peur que, je sais pas, je suis un méchant, moi aussi.
Bon, oui, enfin non, bon, c'est un peu dur. Alors donc, c'est une bande dessinée, c'est l'histoire de la Légion.
Oui.
Il y aura trois volumes. Il y aura trois volumes. Le premier vient de paraître.
Il est tout chaud, oui.
Il est, oui. Alors pourriez-vous nous en parler un tout petit peu? Et puis alors, surtout, on va voir votre dessinateur.
Bien sûr, j'ai tenu à ce qu'il intervienne sur l'antenne parce que c'est un excellent dessinateur, un très grand dessinateur et qui a fait un travail remarquable.
Alors, c'est très beau.
Ce premier tome de l'histoire de la Légion étrangère s'intitule Cameron. Bon, parce que, évidemment, c'est le fait important de cette partie historique. Et donc, la partie historique va des origines 1831 jusqu'à 1918.
Parce que, malheureusement, la Légion a été créée sous l'usurpateur Louis-Philippe. Ça, c'est tout pour ça qu'au début, j'étais un petit peu réticent à en parler à la radio.
Et puis, bon,
mais en fin de compte, cette Légion, elle est, cette Légion étrangère, avec ses règles et ses normes propres, elle est aussi un petit peu l'héritière de tous les régiments étrangers qui se sont succédés, ce qui faisait dire à Louis XIV un jour que quelqu'un la cour lui parlait de l'armée française victorieuse et madame ou monsieur, je sais pas, enfin vous ne devriez pas parler de l'armée française, dites plutôt l'armée de la France. Donc c'était pas mal du tout, ça, c'est pas mal du tout, hein, voyez. Parce que tous nos rois, c'était pas des xénophobes, hein.
Ben non, les régiments écossais, hein, irlandais,
parce qu'ils sont mariés
allemands,
avec des, ils sont beaucoup mariés avec des étrangères, hein. Et beaucoup, beaucoup d'étrangers.
Mais c'est quand même Louis-Philippe qui, par ce décret du 9 mars 1831, a donc créé la Légion. Mais cette Légion étrangère, eh bien, était composée de volontaires, bien sûr, mais qui ne seront plus considérés comme des mercenaires, oui, mais comme des soldats français à part entière. C'est,
oui,
quand même très important.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui différencie de... Non, c'était aussi comme ça sous l'Ancien Régime. Les régiments étaient réguliers.
Ils n'étaient pas considérés comme des soldats français.
Alors, si, c'est... Enfin, non, mais ils étaient réguliers.
Oui, mais
c'est pas
des troupes régulières,
oui,
qui étaient soldées par le roi de France.
Pas oui, mais ils n'étaient pas.
Mais enfin, ils n'étaient pas considérés
pour le
comme
le royal écossais.
Ils n'étaient pas,
Louis
ils n'étaient pas nationaux.
Voilà, voilà, exactement. Et donc,
normal pour les étrangers.
Je vous lis deux phrases du, plutôt une phrase du décret. Une légion d'étrangers sera formée dans l'intérieur du royaume, mais ne pourra être employée que hors du territoire continental du royaume. Ce qui n'est pas vrai, puisque la Légion est intervenue en 70 et en 14-18.
Bah, au moment où le pays était envahi.
Bien sûr, pour le premier album. Hein, je parle du premier album. Alors c'est donc un grand voyage, cette bande dessinée. Un grand voyage à travers l'histoire et aussi à travers les continents.
Bah, au Mexique.
Puisque nous commençons par aller en Algérie, dès 1832, et puis en Espagne. Puis en Algérie, bien sûr, à nouveau, aux Dardanelles avec la guerre de Crimée, en Italie, au Mexique, c'est Cameron, ouais, le 30 avril 1863. La guerre de 70, ben, ça se passe en France. Le Tonkin, le Dahomey, le Soudan, Madagascar, le Sahara, le Maroc à nouveau, et puis la guerre de 14-18 avec à nouveau les Dardanelles. Et on s'arrête là pour le premier tome.
Alors, vous avez fait, donc, vous avez tout scénarisé.
Ah oui, oui.
Les trois tomes, fait
Ah, les trois tomes, ils sont pas encore faits.
Non,
hein,
mais enfin, vous, c'est
le
vous,
premier.
Vous faites le scénario.
Bien sûr, hein,
vous faites le scénario. Et donc, c'est Philippe
Blogowski,
qui, lui, illustre, dessinateur, qui habite en Belgique, qui est belge, d'ailleurs,
oui, bien sûr,
hein,
oui,
un ami belge, qu'on salue, parce que je pense que nous l'avons au téléphone.
Eh bien, il est au micro, si je peux dire.
Philippe, êtes-vous avec nous?
Je suis avec vous.
Eh bien, écoutez, nous vous saluons, et au travers de vous, nous saluons toute la Belgique.
Eh bien, c'est
et notamment cette patrie de la bande dessinée que la France entière vous envie. Voilà, voilà, mon cher Philippe. Alors, je vais vous laisser parler avec notre camarade Guy Le Hideux, que vous connaissez, puisque vous avez fait un forfait ensemble.
Oui, oui,
vous êtes une association de malfaiteurs, qui plus est internationale.
Oui,
ben oui,
oui.
Puisque vous avez fait qu'il y a un travail tout à fait remarquable
sur la Légion.
Sur la Légion.
Eh bien, c'est gentil.
Oui. Et oui, et là, nous sommes mariés pour un petit moment.
Ah bon, alors ça pas, on peut se paxer.
Nous sommes paxés.
D'un côté de l'autre du pied, vrai, dis donc.
Je savais pas, ça n'arrête pas le progrès.
Vous êtes rattachiste. Alors, Philippe Glowowski, je disais, je ne sais pas si tu m'as entendu, je disais que ce travail d'illustration était remarquable, de précision et de mise en scène.
Si, si, j'ai entendu.
Ah. Et tu es devenu tout rouge.
Et tout rouge, tout à fait.
Alors, non, c'était un défi au départ de te confier ces illustrations, non ?
Je pense, oui, parce qu'on se connaissait pas bien. Voilà. Et je ne savais pas non plus si j'étais vraiment capable. Je crois d'ailleurs avoir évolué tout au long du travail. Et bon, je suis assez content de ce que j'ai fait plutôt sur la fin. Mais bon, voilà quoi. C'est un gros travail. C'est vrai que c'était dans mes cordes, puisque j'ai déjà fait des albums historiques.
Oui.
Mais ici, il y avait quand même un gros travail de documentation. Ça bougeait sans cesse, comme tu l'as bien dit, dans les décors, dans les uniformes.
Et alors là, dans les uniformes, si tu me permets, aucune erreur possible. Hein.
Très, très précis.
Erreur de tolérer.
On a eu la chance d'avoir d'excellentes sources de documentation. Bien sûr, on n'a pas fait ça tout seul. On avait de la documentation, c'était visionné par les gens de la Légion.
Des gens d'Aubagne, oui.
Tout à fait. Donc là, on avait quand même des directives. Mais c'est vrai qu'il fallait suivre tout ça. Mais c'est passionnant aussi. De toute façon, c'est joindre l'utile à l'agréable parce que j'aime faire ça de toute façon. Donc voilà quoi.
Et tu me disais cet après-midi ou hier, je ne sais plus, quand je t'ai appelé pour te prévenir que tu intervenais dans l'émission, que ton père t'a aidé aussi.
C'est-à-dire que mon père est un passionné d'histoire militaire. C'est un enfant de la guerre. Hein. Il était tout petit, il a vu arriver les troupes françaises, puis les Allemands, puis il a vu arriver les Américains et les Anglais plus tard, et ça l'a marqué. Donc c'est vrai que sa période de prédilection, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc il va pouvoir nous aider plus sur ce coup-là, hein, sur le oui. deuxième tome. Mais depuis que je suis enfant, oui, il y a à la maison des livres sur l'histoire militaire, et ceci expliquant cela. Hein.
Je peux poser une question à Philippe. Oui, ça prend combien de temps pour dessiner un album comme ça? Parce que c'est quand même, on se rend pas compte, mais c'est un travail considérable.
40 pages.
40 pages.
Oui, c'est un gros boulot. Moi, je compte que en dessin, une page prend entre 20 et 30 heures de travail. C'est une large moyenne, mais donc entre 20 et 30 heures. Ça fait trois grosses journées par planche, quoi.
Et encore, tu travailles très vite, hein.
Je travaille vite, c'est vrai.
Ouais. C'est remarquable, parce que le résultat est là.
Alors, les couleurs, il faut dire que les couleurs ont été... C'est pas toi qui les as faites.
Il faut absolument en parler, parce que je trouve que les studios Leonardo ont fait un boulot fantastique. Vraiment, je suis ravi, parce que moi, je me donnais des indications aux couleurs, c'est facile, mais bon... faut interpréter tout ça, et je dois dire qu'ils ont été vraiment au-delà de mes espérances, et je suis vraiment ravi.
Sébastien de Guerrero, là, qui est un responsable de la communication de l'Action française, qui vient nous parler dans quelques instants du cortège traditionnel pour la Saint-Jeanne d'Arc, qui va se dérouler à Paris le 12 mai, voudrait intervenir pour vous poser une question, Philippe.
Oui, je voudrais poser une question au dessinateur aussi bien qu'au scénariste. C'était afin de savoir si cette BD s'adressait à un public adulte,
ah oui.
enfant, quel était le public destiné, enfin, quel s'est destiné
le public.
L'ouvrage, oui.
À partir de 12 ans, non, Philippe?
Oui, moi je dirais que, oui, 12 ans, pour peu qu'on manifeste un certain intérêt pour l'histoire militaire, même avant, ça dépend un peu des enfants, bien sûr, mais c'est clair que ce n'est pas une lecture facile pour les plus jeunes.
Voilà, parce que...
C'est pas une bande dessinée pour adultes, alors.
Oui, c'est presque, enfin, pour adolescents.
Pour adolescents.
Parce que quand même, il y a des scènes de bataille, des choses quand même.
Et puis, il y a quand même pas beaucoup de texte, hein.
Alors, question sur
Sébastien, que je pose dans cette bande dessinée.
Des scènes osées, non.
Si, il y en a qu'une, peut-être.
Dans les prochains, mais enfin.
Dans les prochains, oui. Non, c'est pas à Madagascar, c'est au Dahomey, hein, c'est ça, Philippe, où il y a des Amazones.
Il y a des Amazones torse nues.
Ah, vous voyez, voilà.
C'est
une bande dessinée qui est destinée à une tranche d'âge 20 ans, et pas plus de 70.
Non, au-delà, parce qu'après, le cœur lâche. Ouais. Alors, nous remercions Philippe. On vous retrouvera au téléphone, Philippe, je pense, quand vous aurez eu le courage, avec votre complice, le I2, de faire le deuxième tome.
Bah, il est en train.
J'espère de tout cœur que vous pourrez venir, et Guy le I2 vous expliquera cela, à la vente de Radio Courtoisie, à l'espace Champéret, le dimanche 30 juin. Tous les auteurs de Radio Courtoisie se retrouvent avec des milliers, des milliers, des milliers de visiteurs, parce que nos amis auteurs sont friands de bandes dessinées.
Ah bon.
Donc j'espère qu'on aura le bonheur de vous revoir.
Eh bien, moi aussi.
Ça serait très bien, oui.
Merci Philippe de votre amabilité, de votre gentillesse, et tous mes voeux et bon courage pour le deuxième volume.
Merci beaucoup, bonsoir.
À très bientôt.
Alors on rappelle que cette bande dessinée est éditée par les éditions du Triomphe, en vente par correspondance et dans quelques rares magasins, malheureusement.
Oui, enfin, dans des bonnes librairies, alors du Ken Diffusion.
Non, 27. Pas du tout.
Comment ils n'ont pas pris ?
Non, c'est jamais un Ken Diffusion.
Ah bon, je pensais qu'ils ne diffusent pas, là.
Mais non, c'est pour ça que...
À la librairie de France Livre ?
C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Mais c'est ça, rue Bayen, 75 017 Paris, et les bureaux sont ouverts tous les jours aux heures habituelles, donc vous pouvez y aller.
Ils sont écologistes ? Non ? Ils sont
comment
pas écologistes, aux éditions de Triomphe ?
Ah, je crois pas.
Ça vous dit que les...
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Les bureaux sont ouverts. Alors c'est très bien, voilà. Ce sera la dernière de la soirée. Merci, oui, je vois qu'il faut que nous sommes sur Radio Courtoisie. Pourquoi vous m'avez mis un petit coup ?
Mais c'est parce que l'heure tourne.
L'heure tourne. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça le drame, mais toujours dans le même sens. C'est très embêtant.
On peut dire que les auditeurs qui téléphonent au Triomphe ont le catalogue
gratuit. Oui, par exemple, allez, donnez le téléphone.
Téléphone du Triomphe, 01 40 54 06 91. 01 40 54 06 91. Tous les auditeurs qui téléphoneront à partir de lundi, puisque là, il y a un viaduc.
Oui.
Recevons le catalogue gratuitement par retour du courrier. Voilà.
Alors c'est une très belle bande dessinée. Je remercie et félicite notre camarade Guy le I2 d'avoir.
C'est passionnant.
Ça.
C'est passionnant.
Oh, ouais, bah, c'est du fait du beau travail. Vous voulez dire quelque chose, petite Victoria?
Non, je regarde seulement.
Mon cher enfant, non.
J'ai deux petites annonces.
Je termine cette soirée, si vous voulez bien, avec Stéphane Carreau, qui a été d'une patience. De patience extraordinaire, mais enfin, comme nous, moi aussi, je suis patient, ça fait 200 ans qu'on est dans l'opposition,
mon
monsieur, alors vous savez, il faut avoir de la patience. Alors, venez, vous êtes étudiant quoi d'ailleurs ?
Je suis étudiant en lettres modernes.
En lettres modernes, on dira pas la...
Non.
Pour la peine. Alors, Sébastien, vous êtes responsable de la communication également de l'Action française.
Tout à fait.
De nos camarades.
Chevènementiste.
Alors, 10 rue Croix des Petits Champs, Paris 1er. 10 rue Croix des Petits Champs, Paris 1er. Ça, c'est l'Action française. Alors, vous faites le cortège traditionnel, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César et l'Action française ce qui est à l'Action française. C'est quand même grâce à la bacar de l'Action française qu'il y a eu une fête nationale de Jeanne d'Arc, un défilé pour Jeanne d'Arc.
Donc voilà, tout à fait. Ça a été payé par 10 000 heures de prison par les Camelots du Roi, imposées au début du siècle. Depuis 1922, c'est devenu une fête nationale au même titre que le 14 juillet, qui est en principe une fête d'obligation au même titre que le 14 juillet, par exemple, pour les maires et les institutions, si vous voulez. Ouais. Bon, c'est une fête qu'honore encore l'armée, puisque lors du cortège traditionnel, tous les ans, des unités militaires viennent faire les honneurs à Jeanne en déposant des gerbes et en faisant le salut au drapeau. Moi, je suis venu ici pour inviter en fait tous les patriotes qui seraient susceptibles ce week-end de venir aussi bien...
Qui doivent venir
aussi bien au meeting que nous faisons le samedi 11 mai à 19h30 intitulé « Restaurer le souverain ». Donc, étant donné l'atmosphère délétère qui a eu cours ces dernières semaines, nous invitons les Français à venir se rassembler autour de ce nom de souverain, de cette question de la souveraineté, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'il y a encore une fois des patriotes dans les deux camps. Et nous ne sommes pas, nous ne goûtons pas du tout la guerre civile qui a cours actuellement. Et c'est pour ça que nous invitons
tous les patriotes. Vous avez vu, Sébastien, je n'ai rien dit. Hein.
Je vous remercie. Au passage, je vous remercie de m'avoir invité, connaissant vos affections particulières.
J'ai pas d'affection. Je suis très sain, vous savez. J'ai pas d'affection.
Mais nous attendons donc tous les patriotes qui doivent venir samedi à ce meeting, auquel assisteront donc.
auxquels parleront pardon, Pierre Pujot, Nicolas Kayenakis, vice-président de l'Action française, Paul Barade, géopoliticien bien connu, Vladimir Volkov, essayiste et romancier, Sylvain Bernis, ancien responsable des étudiants d'Action française, et d'autres, dont l'un, un invité breton, un poète...
Il ne sera pas Étienne Grantaire, et moi-même, voilà. Je ne t'interviens
pas.
Mais qui
sera Henri Lebal.
Mais qui sera Henri Lebal, exactement.
Vous voyez, hein.
Voilà, le lendemain, donc, nous convions à nouveau toutes les personnes à qui la France, qui sont attachées à la France à venir suivre notre cortège traditionnel à Jeanne d'Arc, en date du dimanche 12 mai à 9h30, rendez-vous à l'angle de la rue Royale et de la rue Saint-Honoré dans Paris 8e. Le métro le plus proche, je crois, est Concorde. Et donc nous ferons, dans une atmosphère, encore une fois, qui sera très solennelle, calme et sereine, nous ferons nos honneurs à Jeanne. Nous invitons encore une fois, comme tous les ans, toutes les organisations qui sont familiales, politiques, religieuses, quel que soit leur intérêt, si vous voulez, leur domaine d'action particulière pendant l'année, nous les invitons à ce que nous nous retrouvions tous autour de cette Jeanne, n'est-ce pas, qui a été pour nous, comment dirais-je, à la fois l'étoile du firmament qui a dicté notre combat depuis un siècle, aussi bien dans les tranchées, pendant la résistance.
Et un peu avant.
Oui, bien sûr, non, mais je parle en particulier pour l'Action française, mais encore une fois, ce n'est pas le cortège de l'Action française. Nous en
c'est
sommes comme
l'hommage traditionnel à Jeanne.
Voilà, nous en
mais
sommes
l'ossature. Mais autrefois, on partait de Saint-Augustin.
C'est vrai, il y fut un temps où on partait de Saint-Augustin.
Parce que aussi... Dieu, j'ai connu ça.
C'est
moi.
Vrai, c'est oui, vrai. Oui, oui. Mais parce qu'en fait, il y a une autre statue de Jeanne d'Arc à Saint-Augustin, c'est donc vrai. On passait puisqu'elle était dans.
Il y en a quand même pas mal, on va à Paris.
Il y en a une autre dans le 13e.
Ah, je salue mes frères royalistes légitimistes qui, après le barbouillage qui a été fait sur la statue de Jeanne d'Arc et l'affreux drapeau rouge qu'on avait scotché de tous les sens, allaient démonter ça en plein jour, à deux. Hein. Je ne dirai pas les noms ici, ils se reconnaîtront parce qu'ils écoutent, je les salue de tout cœur. Et bien, ils sont allés, grâce d'ailleurs au portier de l'hôtel voisin qui est venu apporter une paire de ciseaux pour enlever le scotch. Voilà, donc ce qui fait que maintenant elle est toute propre. Voilà. Yves Jeanne.
Oui, voilà, ça c'est typique de ce que nous ne désirons pas voir à l'avenir, c'est-à-dire des Français souiller leur propre patrimoine. Voilà, ça c'est une chose qui blesse nos cœurs.
Mais ce ne sont pas des Français qui souillent le patrimoine. Alors, Sébastien de... bah oui, enfin nous est à deux franges, je vous explique. On fera un grand débat tous les deux. Sébastien de Querrero, étudiant responsable de la communication d'Action française. Alors, 10 rue des Croix des Petits Champs, on a peut-être un téléphone si les gens veulent aller au mitinge.
Alors, pour tout renseignement, téléphonez au 01... 40 13 14 10 01 40 13 14 10. Je rappellerai une dernière chose, c'est que pour les jeunes qui seraient intéressés, nous organisons tous les vendredis soirs à 19h dans nos locaux des cercles de formation parce que pour faire face, si vous voulez, à la subversion qui a cours en ce moment, qui a eu cours ces dernières semaines dans la rue, et à la subversion qui a aussi, qui s'organise en ce moment dans les facultés, il faut que nous nous formions et que nous faisions face.
Soyez la Seigneur Parse, jeunes qui nous écoutez, la Seigneur Parse de ce pays. Voilà, il nous reste une petite minute. Je m'excuse, Sébastien, de vous avoir pris si peu de temps et de vous avoir fait patienter tant de temps. Je vous remercie. Un message.
Les rencontres dans le cadre des rencontres culturelles de Paul Bilaire, le lundi 20 mai. Le cimetière Montmartre. Rendez-vous à 15h, avenue Rachel, métro Place Clichy ou Blanche. Et puis j'ai eu un petit message tout de suite. Nous venons de voir sur TF1 une grosse embrassade de la Noé Bachelot.
Oh, bah c'est bien. Et on aura de beaux petits enfants. Bon, alors, merci. Oui, c'est fini. Merci à tous les auditeurs. On se retrouvera pour une demi-émission la semaine prochaine. Serge Bekech en première partie. D'ici là, vive Jeanne, vive le roi et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 mai de 18 à 21h, en différé jeudi 9, dans la matinée, dans la nuit de 2h à 5h, je ne sais plus ce que je dis, diffusé en mercredi 8 mai de 18 à 21h, en différé jeudi 9, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.